14h pile. Bienvenue dans le mois de mai. Bienvenue chez vous à Boulevard 102.1. Bienvenue chez nous dans le retour. C'est un soleil qui laisse un peu à désirer, mais on a quand même 10 degrés présentement à Québec. Ce qui fausse encore la donne, oui, c'est le vent qui est glacial. 14 degrés, le maximum prévu pour cet après-midi. Demain, de la pluie, et là, on parle de bonne quantité, entre 10 et 15 mm d'eau. Des vents d'est de 20 km/h qui se taisent un peu dans l'après-midi, maximum de 10. Samedi, nuageux maximum de 15. On a sauvé la fin de semaine. Dimanche, du soleil, un maximum de 16 degrés. Pour nous rejoindre en studio, pour quoi que ce soit, il y a des choses à surveiller sur les routes. Il y a des sujets sur lesquels vous voulez qu'on réagisse, qu'on discute ensemble. Vous avez des choses à partager, positives, négatives. Vous avez un trop-plein. Tout ça se passe par les textos, entre autres, 418-971-1021. Et également par téléphone, pourquoi pas, 780-1021 dans le 418. En vous rappelant qu'on est partout, mais littéralement partout, sur vos réseaux sociaux. Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. On est sur le Twitch, en direct, en studio avec les caméras et les micros ouverts pendant les séquences musicales. Twitch.tv pour nous rejoindre. Et rejoindre la communauté, BLVD barre en dessous FM, c'est le nom de notre chaîne. Gravel dans le retour qui s'installe, on est là jusqu'à 18h. Mon nom est Denis Gravel, Véro bonjour,
allô.
Audrey bonjour.
Hello.
Sam Hamad sera en studio aux environs de 16h pour sa deuxième sortie médiatique. Si vous avez des questions, moi il m'en reste plusieurs en fait. Toutes les questions que j'ai posées la première fois sont encore toutes là. J'ai pas eu de réponse, mais un peu plus sérieusement, gênez-vous pas, hein, 418-971-1021. Ou passez par le Facebook de Boulevard. C'est rare qu'on commence en actualité, mais le point de presse de Bernard Drinville n'est pas terminé et il se donne des allures de chef d'État pour annoncer quelque chose qui est déjà en vigueur dans 95% des écoles du Québec.
Puis je trouve
ça tellement drôle.
Ben, c'est la manière, le contenant laisse à désirer, tiens.
Ben, c'est que il se donne tellement de sérieux et d'emphase que je pense qu'on a trouvé c'est qui, dans le dos de François Legault, est en train de préparer la succession.
Une course à la chefferie, tu penses, c'est lui les modalités?
Je pense qu'il se donne des allures, pas de premier ministre, de chef d'État, tiens
oh,
donc.
Mon Dieu.
Ça se peut-tu?
On a suivi le point de presse pour confirmer l'interdiction dès la prochaine rentrée dans les écoles privées et publiques du cellulaire, des appareils électroniques individuels depuis quand même un certain temps. Puis, tu sais, on riait de Justin Trudeau qui était prof d'art dramatique. On dirait que Bernard Drinville a joué un pas game pour pouvoir incarner le plus de variété d'émotions dans son point de presse, de la colère au désespoir, en passant par le côté tendre et compréhensif. Ah, oh, c'est drôle,
le ton qu'il se donne, là, c'est comme s'il annonçait qu'on était en Troisième Guerre mondiale puis que les gars pas mariés de 18 ans et plus vont devoir s'enrôler.
C'est vrai!
Alors que tu fais juste confirmer ce que tout le monde sait déjà, que les cellulaires vont être interdits dans 3-4 écoles du Québec où ce n'était pas encore le cas.
Donc, du début à la fin des cours, y compris les pauses et l'heure du dîner, sur le terrain de l'école, ce sera interdit d'avoir tout ce qui est téléphone cellulaire, écouteurs, autres appareils mobiles personnels. Ça sera aux écoles de déterminer comment mettre en œuvre cette interdiction-là. On veut aussi, tu sais, on a comme amené plein d'affaires là-dedans. Là. C'était pas juste le cellulaire, mais on veut amener la norme dans les écoles du vouvoiement et des termes monsieur, madame. Ça, je pense que ça aussi, c'est commun dans une majorité d'écoles.
Ben, moi, c'était de même, en tout cas. Puis ça, moi, je suis pas contre dans le sens que c'est la politesse puis du décorum.
À l'école de mes gars, c'est de même que ça marche. Ouais. C'est monsieur, madame. Puis je fais partie des gens qui ont absolument rien contre ça.
Non.
Au contraire.
Mais là, on est sorti aujourd'hui avec tellement de rage au cœur en disant que, entre autres, les moqueries, les insultes, les conflits violents prennent naissance sur les médias sociaux.
Là,
c'est vrai que c'est arrivé avec le cellulaire.
Non, c'est ça qui arrive. Puis une des citations idiotes de Bernard Drinville, c'est, et je cite, « Maintenant qu'on va éteindre... » Attends un petit peu. Maintenant qu'on va éteindre les cellulaires, les jeunes vont se parler. Ouais, puis ils vont pouvoir se crier des noms puis se crisser des bines. Je veux dire, le problème de l'intimidation, si Bernard Drainville n'a pas réussi à le régler encore, mais on sait que Bernard Drainville a réglé l'intimidation scolaire, il y a quoi?
Avec son speech.
Plusieurs semaines.
Quelques semaines à peine. Là, avec ses fameux vidéos de table ronde et de conscientisation. Allô? Allô, toi? C'est mon oncle Bernard. Tu sais que c'est pas gentil, hein, d'agacer tes copains et tes copines.
Non.
Un peu plus, puis il arrivait avec une marionnette, puis elle faisait parler là, comme un ventriloque. Là. Comment tu trouves ça, toi, monsieur Magie?
C'est pas mal le fun!
Comme le prof dans South Park!
c'est complètement ridicule.
C'est
mais,
très réducteur, mettons.
Puis Bernard Drainville se voit très gros. Il s'est toujours vu gros. Oubliez pas qu'il a négocié son retour en politique. Pas avec l'orientation politique d'un parti ou les valeurs. Il a regardé qui avait le plus de chances de lui donner un ministère important. Vraisemblablement pour préparer la suite. Et achetez-vous ça, vous autres, Bernard Drainville, comme chef de parti?
Non.
Achetez-vous ça, Bernard Drainville, comme premier ministre?
Non.
Ça ne passera pas.
Pense pas.
Il n'y a pas de... Comment dirais-je?
Il n'y a pas la crédibilité, je suis
en
désolée.
Fait, au-delà de ça, il n'est pas attractif. Non. Il n'arrive pas à polariser dans le bon sens. Il n'est pas rassembleur. Quand il fait des sorties, on n'entend pas les gens dire « Crème, il a tellement raison ». Fut un certain moment donné où, par exemple, on remonte à il y a longtemps, là, Geneviève Guilbeault avait ça.
Ouais.
Elle est beurrée par
le gouvernement. Puis c'est quand on réfléchit à ça, parce qu'il y a une rumeur, ben en fait, c'est pas une rumeur, là, c'est le chef du Parti libéral, Marc Tanguay, qui est arrivé avec ça. Mm-hmm. Il dit qu'il y avait une source qui lui avait révélé que présentement, dans le dos de François Legault, on préparait sa succession. Puis c'est pour ça que François Legault, cette semaine, est ressorti une autre fois pour dire que oui, il allait se représenter pour un autre mandat. Le signe que les mauvaises nouvelles arrivent jamais vraiment seules. Mais là, tu te poses la question, qui peut être à l'origine de ça? Geneviève Guilbeault a probablement commencé à faire ça trop de bonheur, puis vous savez ce qui s'est passé. Ils l'ont envoyé à pénitence. Puis maintenant, dès que la CAQ décide quelque chose qui fait pas de sens ou se contredit, le premier ministre disparaît, il s'en va au hockey, il s'en va au tennis, il s'en va lire un livre, et soudainement, c'est Geneviève Guilbeault qui est devenue la femme de la situation. Fait que c'est l'équivalent d'une punition, ça, en politique.
C'est l'équivalent de vouloir brûler quelqu'un publiquement puis s'assurer qu'elle ne puisse pas recouvrir de ça. On parlait d'interdiction, puis tu sais, quand on parle des écoles qui sont nombreuses à interdire le cellulaire, oui, c'est dans les cours. Là, on parle de vraiment toute la journée. Fait que ça, c'est pas toutes les écoles qui le font. Mais tu vois, Mathieu nous dit « À ma première école secondaire en 2012, ça fait quand même 13 ans de ça, les sels étaient interdits. C'était la seule école secondaire de la Commission des navigateurs à ce moment-là. Mais si on remonte à 2012, pour ce qui est du vouvoiement, j'ai une de mes amies qui est prof, elle dit « Le vouvoiement à mon école est obligatoire depuis 2002. »
Ben oui.
Ben, on a un autre texto dans ce sens-là. Souvent, les règles du vouvoiement sont implantées / obligatoires de secondaire 1, 2, 3. Ouais. Ensuite, en 4, 5, c'est à la discrétion des enseignants. Puis 80% des jeunes conservent l'habitude du vouvoiement, monsieur, madame, naturellement. Il dit « C'est ce qu'on appelle faire de l'éducation. »
Mais
c'est vrai que ça en fait partie.
Bernard Drainville est arrivé comme une espèce de sauveur sur son cheval blanc imaginaire, mais ça a sonné Don Quichotte, c'est bon.
Puis ça donne, tu sais, c'est se donner de l'importance avec pas grand-chose, parce que sur le fond, les écoles qui avaient des problèmes avec le cellulaire ont réglé le problème en l'interdisant. Et ceux qui ne l'ont pas interdit, le cellulaire, bien, vraisemblablement, c'est qu'ils n'ont pas de problème avec.
Ou encore s'il y avait...
Dans cette situation-là que je viens de décrire, il est où le problème puis en quoi tu as besoin du gouvernement? Parce que déjà, les gens qui avaient des problèmes avec les cellulaires, ils ont réglé le problème. Les autres, bien, ils n'ont pas de problème.
Ou encore, il y avait peut-être de la difficulté à le faire passer puis là, le gouvernement vient de leur donner une poignée pour le faire.
Peut-être. J'ai l'impression que dans les classes, c'était déjà le cas dans la majorité
depuis
des
longtemps.
Écoles. Oh, peut-être dans les pauses puis sur l'heure du dîner que ça va réellement faire un changement pour les élèves. Là.
Nous autres, on nous avait interdit les montres calculatrices à l'époque. Fait que...
Les montres calculatrices.
T'as jamais vu ça?
On avait des montres calculatrices qui étaient immondes, c'est-à-dire qu'elles étaient remplies de pitons. Puis l'écran était minuscule. Ouais. C'était pas très fonctionnel. Ni pour tricher dans une épreuve de maths, ni pour avoir l'heure. Mais il y a eu une mode. Puis à un moment donné, ben les écoles, en tout cas l'école où j'allais est intervenue pour dire les gens qui ont des montres comme ça, ben quand il y a un examen, vous les mettez dans votre étui à crayon puis vous me remettez votre étui à crayon.
Ah, ben c'est logique quand même.
Mais tout ça a été fait, et je sais que c'est dur à accepter, là, mais tout ça a été fait sans l'intervention du ministre de l'Éducation.
Mais ça...
je laisse ça comme ça.
Je serais curieuse, par exemple, au 88-971-101, tu sais, parmi les gens qui travaillent dans les écoles, parmi les enseignants, les TS, peu importe, est-ce que vous avez l'impression que ça change quelque chose? Est-ce qu'on annonce ça parce que nous autres, on s'en rend pas compte, puis dans le fond, les profs ont vraiment de la misère avec leur autorité? T'sais, y a-t-il un peu de ça ou pas du tout?
Aujourd'hui, est-ce que vous avez le goût de dire « Merci, monsieur Drainville, poussez-vous un soupir de soulagement parce que vous aviez besoin que le gouvernement colle la shot? » Ouais. Moi, ce que je trouve particulier, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont elles-mêmes collé la shot.
Déjà, ouais.
Et celles qui ont de la misère, ben, je veux pas les voir dans des dossiers qui sont, comment dire... un petit peu plus complexe.
Puis, de penser que à la prochaine rentrée scolaire, on va avoir réglé tous les problèmes d'intimidation, de moquerie, de violence. Bernard Drainville va trouver son réveil fort difficile en septembre 2025 quand il va se rendre compte que oups, il y a d'autres manières d'intimider, il y a d'autres manières de se lier, puis c'est super poche. Je suis absolument pas pour l'intimidation. Je me suis fait écœurer quand j'étais au secondaire. J'ai haï ça. J'avais tellement hâte de sortir de mon école secondaire. On n'avait pas de cellulaire. Les jeunes étaient capables de se liguer les uns les autres par rapport à ça, puis l'école intervenait du mieux qu'elle pouvait, mais souvent, c'était fait de manière super sournoise, puis c'est poche, mais je pense que ça fait partie du moment où tu te fais une carapace quand t'es plus jeune.
Je vais aller plus loin. On en a parlé, c'est quoi, c'est cette semaine, avec Caro Gagnon, qui est psychiatre.
Oui.
Le problème, c'est que dans notre temps, oui, on se faisait intimider à l'école, puis c'était de façon verbale, puis de façon physique.
Oui.
Quand t'arrivais chez vous, c'est là que tu coupais les ponts. Parce que tu étais isolé du monde scolaire. Si tu le voulais, tu pouvais. Le problème du cellulaire et de l'intimidation, c'est pas pendant les heures de cours. C'est quand tu reviens à la maison.
Quand tu regardes encore les pauses qui vont t'écœurer ou la photo où tu vas faire rire de toi.
C'est la distance qu'un ado, aux prises avec des émotions qui a encore de la misère à contrôler, c'est une distance que tu n'es pas capable de prendre par rapport aux gens qui t'intimident. Fait que la vraie intimidation par les réseaux sociaux... Le problème n'est pas dans les heures de cours. Monsieur Drainville, avec respect, c'est la maison. C'est le reste. C'est parce que ça te lâche jamais. Exact, exact.
Puis, ça risque d'avoir des avantages pour des écoles qui n'avaient pas pu... Je vais estimer qu'ils le font parce qu'il y a des écoles qui n'étaient pas en mesure de le faire autrement que sans l'aide du gouvernement. Oui, ça va aider. Mais ça ne touchera pas ce volet-là.
Il y a un texto qui vient de rentrer sans surprise. On revient à la problématique principale des écoles modernes. Un prof au secondaire depuis 2004 qui nous texte et salué d'ailleurs, mon ami, le sentiment est que c'est une gestion parentale qui est jetée dans la cour des écoles, l'impact des médias sociaux, trop de temps sur leur sel et ainsi de suite. Puis j'ai l'impression que concernant les interdictions de sel, encore une fois, c'est les parents qui sont le problème principal à gérer dans les écoles. C'est pas vrai que vous allez enlever le cellulaire à mon enfant. Déjà entendu ça, moi, au fil des années, là, puis plus qu'une fois, là, des parents qui acceptent pas les règlements de l'école, puis qui acceptent pas les sanctions. Moi, je suis pas meilleur qu'un autre en passant. Là, ma job de parent, je la prends drôlement à cœur. Elle m'empêche de dormir la nuit des fois là, parce que je me demande si j'ai calé bonne shot ou whatever. Mais moi, le cellulaire avec mon grand, j'ai réglé ça de façon assez simple. Tu peux l'amener dans l'autobus, ton cellulaire. Papa faisait pareil avec son Walkman. On écoute de la musique, on a des écouteurs. Ça fait partie de notre vie un peu, puis c'est bien correct.
Mm-hmm.
Mais j'ai dit la journée ou à l'école, parce qu'à l'école, il n'y a pas le droit de l'avoir. La journée où l'école te prend ton cellulaire, papa n'ira pas le chercher. Tu ne l'auras plus. Puis c'est tout. Fait que gère ça comme tu veux, mais gère ça.
Parce que si tu ne gères pas, ben je ne le gérerai pas à ta place.
Puis j'irai pas te représenter comme ton avocat de la défense.
Te sauver.
Comment osez-vous prendre le cellulaire de mon enfant? Je ferai pas ça.
Il y a quelqu'un qui dit « Je suis TS et je suis déjà triste pour tous les surveillants d'élèves qui vont jouer à la police, malheureusement.
» Non, mais ça, ça va dépendre. Si toutes les écoles vont décider c'est quoi leur manière de faire, puis il y en a plein d'écoles qui le font déjà. Fait que j'imagine que les meilleures pratiques vont se jaser, puis ça va, ça va s'aider de ce côté-là.
Il y a Marie-Ève qui nous dit aussi « Si vous saviez à quel point les directions d'une école à l'autre interprètent les règlements différemment, au sein de la même ville, deux écoles différentes, deux directions différentes, et les règlements pour l'interdiction des cellulaires n'est pas appliqué de la même façon non plus. C'est le vécu de mon chum qui est prof au secondaire public versus ma belle-mère qui est prof au secondaire privé. »
Ça, c'est correct parce que Bernard Drinville, ça fait partie des bonnes choses qu'il a dit tantôt en disant « Hey, c'est pas à nous de dire aux écoles comment faire les choses. Ils vont mettre en place selon parce que tu as des plus petites écoles, tu as des écoles un petit peu plus grandes. C'est très, très, très variable.
Moi, j'aime les différences entre les écoles parce que ça permet à des parents ou à des jeunes de décider dans quel cadre ils sont le plus à l'aise. Puis on a des chiffres d'ailleurs, on va peut-être avoir le temps d'en parler tantôt, mais on a des chiffres aujourd'hui qui nous montrent que plus les écoles se distinguent les unes des autres avec des cours précis, des spécialisations, moins les jeunes décrochent. Puis dans un canal communautaire qui est le même pour tout le monde, ben on perd le quart de nos jeunes qui abandonnent avant de finir le secondaire. Fait que moi, qu'il y ait des différences d'une école à l'autre, je trouve ça génial. Ça donne une liberté de choisir qu'on n'avait pas vraiment il y a 20-25 ans.
Qu'est-ce qui te parle comme jeune? Oui. T'es allé il n'y a pas longtemps au salon pour les écoles secondaires avec ton plus vieux?
Le service que ça m'a rendu en tant que parent qui faisait de l'angoisse, mais ça va plus loin que ça. Mon jeune, en parlant avec des gens des écoles, a compris pourquoi papa, il cassait les oreilles depuis le début de l'année concernant ses résultats scolaires. Mm-hmm. Il a compris là. Il a compris en parlant avec des responsables des programmes hockey dans certaines écoles.
Que les raisons étaient légitimes, étaient louables de vouloir travailler fort à l'école.
Papa, il a dit une couple de fois.
Mais papa, il a jamais raison.
Jamais raison.
C'est sûr que de te le faire dire par le directeur de l'école, qui aimerait bien ça que tu fasses partie de la gang, là, tu passes à un autre niveau. C'est ça, c'était le salon de l'école privée. C'était à l'université Laval. Il y avait du parent là et du jeune là, comme ça se peut pas. Puis ça permet de magasiner puis de voir les différences. Puis c'était le fun aussi de voir mon grand réagir, parce que là, les gens sont là, ils vendent un peu le concept de leur école. Puis c'est là que je me suis rendu compte que mon grand resterait pas longtemps à maison.
Oh ouais, hein?
Ouais, il était déjà prêt à partir dans une école où tu pars le dimanche soir puis tu reviens le vendredi.
Ah oui, lui, il voulait aller en pension.
Ouais. C'est l'école des hauts sommets qui a ça.
Hey, arrête, il y a eu un intérêt.
La seule raison pour laquelle il a changé d'avenue, c'est qu'il n'y a pas de hockey.
Mais lui, il aurait aimé ça pouvoir partir puis vivre sa vie.
Il était prêt, là. Il partait. Je fais « Ouais! » Il dit « Tu colleras pas à la maison longtemps, toi? D'après moi, à 16, tu vas être parti, là.
Hey, » t'aurais dû
faire des caps le collège, là.
Ah oui?
T'aurais dû lui faire essayer les camps de vacances où tu dors, là. Ça aurait été un pas pire test pour lui?
Ben là, c'est parce qu'il va s'abonner au camp de vacances que tu vas le porter au mois de juin puis tu reviens au mois de septembre.
Oh, tu penses que ce serait son genre?
Je suis pas prêt. Oui, ben écoute, il y en a que... C'était tellement pas mon cas quand j'étais jeune. Quoique, je suis parti à 16 ans, moi. Je suis parti dès que j'ai eu l'opportunité, justement, parce que je trouvais que j'étais...
Là, tu restais loin.
En retard. J'étais pas très indépendant, j'étais pas très dégourdi, puis je me disais, ben c'est le temps d'aller sauter dans le trop creux là, pour voir si t'es capable de nager un peu. Et à grands coups de riz instant et de sandwich McPoulet fait au four maison, avec deux tranches de pain blanc et une croquette de poulet congelé, ben j'ai réussi à passer à travers mon cégep.
Ouais, c'est vrai que ça éduque tout seul hein, quand tu quittes le petit nid familial.
Ouais, c'est sûr. C'est sûr que se donner un coup de pied dans le derrière une fois de temps en temps, ça fait du bien.
On parle des téléphones cellulaires à la base dans les écoles secondaires. Puis
il y a beaucoup de réactions en passant.
Énormément de réactions. Puis il y a Christian qui amène un point que je trouve pas complètement fou concernant les adultes même. Il dit, il y a beaucoup de superviseurs que je connais qui songent à interdire le cellulaire au travail.
Ben oui.
Ils sont tannés qu'il y ait certaines personnes qui ne soient pas capables de gérer justement leur temps d'écran pendant les journées de travail, puis qui songent à faire, ben regarde, ça va être interdit, puis tu le récupères à la fin de ta job. Là.
Et je suis très à l'aise avec tout ça. Je veux dire, moi, ce serait dans les restaurants, dans les salles de cinéma. Les spectacles qui ont commencé à le faire, Jack White a été un précurseur. La tournée de Ghost débute ce soir, puis les cellulaires, ils vont dans un petit sac noir. Puis à la fin du spectacle, ben, tu ramasses ton cellulaire. Puis j'ai tellement hâte, je vais voir Ghost à Boston, j'ai tellement hâte de pas voir de cellulaire d'un film. Spectacle comme dans le temps. Hein? Ça va être génial.
Mais là, ce à quoi Audrey faisait référence, en fait, l'auditeur qui écrit, c'est sur le milieu de travail, le nombre de minutes et d'heures volées à un employeur. À une certaine époque, quand j'étais fonctionnaire, je devais gérer tout ce qui était les sites qui étaient consultés à la bibliothèque qui est dans le basilaire du complexe G. Parce qu'on s'était rendu compte que des gens à l'intérieur des différents ministères venaient sur place, allaient sur les ordinateurs pour soi-disant consulter des choses en lien avec leur travail. Puis on se rendait compte que finalement, c'était pas mal plus pour Facebook, des sites de rencontres. Facebook n'était pas là à ce moment-là. Mais c'était des sites de rencontres, c'était des sites de pornographie, c'était des sites qui avaient absolument rien... Oui, c'est des sites qui avaient absolument rien à voir avec le travail. C'était tous les sites de courriel personnel parce que les ordinateurs dans les bureaux, les accès étaient bloqués. Mais celui de la bibliothèque, vu que c'était un lieu de recherche, on y allait beaucoup plus large, on permettait beaucoup plus. Mais t'allais voir des historiques, Audrey, là, comme, ben voyons, il est allé passer trois heures à niaiser à la bibliothèque.
C'est épouvantable.
Quand on allait au cégep de Jonquière, puis qu'Internet a commencé à être installé, personne n'avait Internet à la maison. Le seul endroit où il y avait Internet, c'était la bibliothèque du cégep. La première photo de Pamela Anderson qu'on a downloadée, ça prenait 28 minutes à peu près, là, ligne par ligne, là. Mais c'est au cégep. On faisait tout ça ou à peu près.
Ça, puis les chatrooms.
Ben oui.
Il n'y a personne qui faisait des recherches intelligentes dans ces chatrooms. tu jasais avec du monde. C'est la première fois que tu pouvais communiquer en temps réel avec des gens qui n'étaient pas dans la même pièce que toi. C'était absolument malade, là.
Aïe, aïe.
Toutes les possibilités qu'on avait avec Internet, on s'en est servi pour du chatroom puis du porn. Ça, c'est l'équivalent de... On va chercher l'homme préhistorique, on lui donne les deux bouts de bois, puis on lui dit « Hein, tu peux faire du feu avec ça. » Il s'en rentre un dans le nez, puis l'autre dans le cul. Il est 2h21. Vous êtes à Boulevard 102. Hein?
Ah, l'humain.
C'est Gravel dans le retour. 418-971-1021 pour nous rejoindre la plus récente de Shinedown.
Le vieux Shinedown. Même du rock qu'on n'entend pas dans la programmation régulière. Le Garage à Dan, tous les vendredis, 18h. Boulevard 101.
Il a beau faire gros soleil à l'extérieur en ce moment, il fait frais. Quoi de mieux qu'un bon café qui fait du bien à l'âme? Et ça, ben, vous le trouvez chez Café Sobab, une petite marche sur la 3e avenue cet après-midi. Là. Pour le meilleur café, des conseils personnalisés, l'achat ou le nettoyage de votre machine chez Sobab vous fait toujours un déplacement qui est payant. Offrez-vous la crème de la crème avec les machines espresso manuelles ou encore les machines automatiques Jura, puis vous pourrez déguster le meilleur café tous les matins à partir de chez vous. Je pense qu'on le mérite. Découvrez aussi notre nouvelle plateforme de prise de rendez-vous en ligne sur le cafésobab.com. Je dis nouvelle, mais depuis le temps qu'on s'en parle, je pense que vous commencez à être habitué. Vous pouvez prendre vos rendez-vous carrément sur cette plateforme-là pour réparer la machine. Pour consommation immédiate, pour vous équiper à la maison, peu importe la saison, Café Sobab, Sobab sur la 3e avenue à Limoilou. Visitez cafésobab.com.
Hey, salut, c'est Audrey.
On a 10 degrés à Québec sous le soleil. Il va mouiller demain, mais la bonne nouvelle, c'est que la fin de semaine est saine et sauve. On aura des nuages samedi, plein soleil dimanche, maximum de 16 degrés. Déjà des choses à signaler sur les routes, 418-971-1021.
C'est quand même léger, ceci dit, là, si vous êtes sur Laurentienne, direction sud, vous allez chercher... Capitale, direction ouest. Il y a des ralentissements dans la bretelle qui commencent à s'installer. Sinon, ça se passe sur la rive sud, la 20 direction ouest, hauteur Taniata. Ça commence à ralentir également. Évidemment, il y a quoi que ce soit d'autre. Vous vous gênez pas, ça passe par le 418-971-1021 texto.
Je suis super pourri en technologie. Sinon, je l'aurais déjà fait moi-même, mais si un petit malin peut aller sur la page Wikipédia de Bernard Drainville et dans les premières lignes ajouter le fait qu'il a réglé l'intimidation scolaire dans les écoles, j'apprécierais.
Merci. Tu sais que c'est simple, hein?
Ça a l'air que c'est simple.
Oui, quand tu vas sur Wikipédia, sur n'importe quelle page, là, puis tu scrolles au bas, tu peux modifier l'article qu'il
appelle. Mais je pense que ça, ça pourrait rester là longtemps. Là. Il a lui-même mis fin aux problèmes d'intimidation dans les écoles.
En 2025.
Puis aucune explication, là, juste la phrase droppée de même.
Bernard Drainville passe à l'histoire en 2025 en mettant fin à l'intimidation.
Hey, dans les autres nouvelles de ce 1er mai, Véro, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se brasse autour de nous autres et autour de vous autres?
À 15h cet après-midi, il y aura un appel officiel entre le premier ministre François Legault et le gars qui trouve qu'il a la même économie que lui, le premier ministre canadien Mark Carney. C'est le premier rappel officiel depuis l'élection de lundi. On sait que Mark Carney, lui, doit se rendre du côté de Washington au courant de la prochaine semaine pour rencontrer un certain Donald Trump. Donald Trump qui a confirmé dans les dernières minutes que son conseiller à la sécurité nationale, Mike Waltz, quittait bel et bien son poste, avait commencé à circuler en soirée hier. Faut se souvenir qu'il y a quelques semaines de ça, il s'est retrouvé dans la tempête à l'effet qu'on aurait ajouté un journaliste par inadvertance à une conversation qui avait lieu sur la messagerie Signal, qui est une messagerie encryptée, mais qui n'est pas la messagerie officielle qu'on utilise habituellement quand vient le temps de parler de sécurité nationale et de stratégie. On avait tenté de le défendre bien en masse. Il n'est pas le seul, d'ailleurs, à être dans cette liste-là. Il sera le prochain ambassadeur américain aux Nations Unies.
Bon.
Fait qu'on lui a enlevé ce titre-là, mais pour pas que ça fasse « Hey, t'as fait quelque chose de croche », on lui a donné un beau poste, une belle tablette dorée.
C'est quand même rare que je vais jouer au défenseur de Donald Trump. J'ai un petit peu de vomi dans la bouche, mais j'ai comme pas le choix. C'est vraiment le seul politicien, hein, Donald Trump, à prendre des gens problématiques puis à lui donner des tablettes dorées ailleurs. André Boisclair.
Ah, c'est vrai, il y avait eu des beaux postes, lui, à New York. Oui. Ça avait super bien
lui,
été.
Il était nuisible pour le Parti québécois. Puis là, on se demandait, il y a des affaires qui vont sortir, ça va sortir quand? On va l'éloigner. Mais les façons d'éloigner les individus nuisibles et toxiques, ben, c'est de lui donner des maudites belles jobs qu'on rêverait toutes de faire. C'est pas une punition, c'est une promotion.
Denis parlait de Bernard Drainville. Si vous avez manqué le début de l'émission, l'origine de tout ça, c'est le long, long, long point de presse qu'il a donné aujourd'hui pour confirmer quelque chose qui circulait déjà, soit l'interdiction des cellulaires à l'école pour les élèves dès la rentrée scolaire prochaine. Quand on parle de cellulaires, là, c'est au-delà de ça, c'est téléphone cellulaire, écouteurs, tout autre appareil mobile personnel qui vont être interdits d'usage sur les terrains d'école du début à la fin des cours, y compris pendant les pauses et l'heure du dîner dans toutes les écoles du Québec, qu'elle soit publique ou privée. C'est aux écoles qu'on va donner la responsabilité de déterminer comment on va mettre en œuvre cette interdiction-là. On ajoute à ça quelque chose qui semble ultra commun si on se fie aux différents textos qui nous ont été envoyés, soit l'utilisation du vouvoiement et l'usage des termes « monsieur, madame » pour parler au personnel enseignant. Parmi, on a aussi parlé de sanctions possibles pour ceux qui ne respectaient pas les règles qui seraient mises en place. On parle de l'avertissement jusqu'à l'expulsion en passant par geste réparateur. Fait qu'il y a encore des détails à travers tout ça. Mais c'est parce que Bernard Drainville a sous-entendu qu'en faisant ça, on mettait fin à tout ce qui était moquerie, insulte, conflit violent qui prenait naissance sur les médias sociaux.
Bien, il y a raison. Si tu vas sur son Wikipédia, c'est écrit. Il a mis fin à l'intimidation scolaire.
Des plans pour que ce soit lui-même qui mette une affaire comme celle-là, ça m'inquiéterait quand même un petit peu.
Bernard Drainville ferait un excellent chef d'État. T'sais, c'est la première ligne de son Wikipédia, modifié par Bernard Drainville.
T'sais, expulsion pour utilisation du cellulaire, par exemple, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va passer la première fois que ça va arriver, là. Un peu tata, là.
Ben là, c'est parce que je vois pas comment tout ça peut tout ça gérer.
C'est fait en passant. Bernard Drainville, né le 6 juin 1963 à la Visitation, est un journaliste, animateur de radio et homme politique québécois, héros responsable de la lutte contre l'éradication du bullying dans les écoles québécoises.
Peux-tu faire une saisie d'écran avant que ça disparaisse?
Un screenshot, envoie-le-moi.
Ouais,
ça, on va l'oublier.
Okay, c'est bon.
Important.
Hey, vous êtes vite, vous êtes vite.
L'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui est revenu encore une fois hanter le gouvernement de la CAQ à ce moment-ci, parce que là, vous avez vu qu'on en a rajouté une couche. On avait déjà parlé des animaux, on avait parlé des fenêtres qui explosent, du courant qui a lâché au pire moment. Là, c'était les plafonds qui coulent dans des salles d'attente. Saviez-vous ça que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont dessert 10 % de la population du Québec? C'est quand même gigantesque. Ben,
l'autre chiffre, c'est 30 % de la population de Montréal. J'imagine que ça revient un peu au même, là, mais on écoutait des extraits d'entrevues dans le Pit Stop ce midi, puis ça saisit, là. C'est des chiffres qui sont alarmants. Puis après ça, tu regardes le premier ministre jouer à la politique à l'Assemblée nationale.
Il est terrible.
C'est imbuvable, sérieusement, comment est-ce que François Legault est complètement déconnecté de la réalité.
Là, il dit qu'on cherche désespérément à trouver 85 millions dans les dépenses en infrastructure en les réaménageant pour lancer la première phase du projet, qui est la construction d'un stationnement. Il dit si on essaie de régler les problèmes mineurs dans tous les hôpitaux, Québec n'a pas les milliards qu'il faut pour régler les problèmes majeurs. Et là, il s'est mis à blâmer d'anciens premiers ministres. Jean Charest, Pauline Marois, Philippe Couillard, pour ne pas avoir rénové l'hôpital Maisonneuve-Rosemont plus tôt.
Ça fait 7 ans que t'es là. Tu peux t'essuyer le cul sur le gouvernement d'avant si tu viens d'arriver. pas quand ça fait 7 ans que t'es là.
Mais François Legault, ça fait pas juste 7 ans qu'il est là. Et c'est le bout qui est encore plus drôle. Dans le texte de la presse, on relate que la ministre Sonia Bélanger a rappelé que Le Devoir, en 1999, disait que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'était très dangereux. En disant, je ne vous dirai pas qui était au pouvoir en 99, ça c'est André Fortin, un libéral, qui rajoutait ça. François Legault est un ministre dans le gouvernement qui était en place en 1999. Et lui est devenu ministre de la Santé en 2002-2003.
Bon. Fait que s'il veut reculer, il peut reculer jusque-là puis se blâmer lui-même.
Puis peux-tu faire ça
c'est
le serpent, blâmer?
C'est littéralement le serpent qui se mange
ça
la queue.
Ça fait mal en dire que tu l'as échappé tout simplement.
Ben là.
Puis tu sais, en frais d'argent... Ça semblait pleuvoir il y a quoi, quelques mois à peine? Pourquoi soudainement on a de la difficulté à trouver ça pour des affaires qui devraient être urgentes? Là?
Moi, je te l'ai dit comment le règlement va... comment le gouvernement va régler ça, sais-tu comment?
En perdant sa prochaine élection?
Non, on va s'inspirer de ce qui se fait à Québec où maintenant on va donner du sel aux gens pour qu'ils glacent eux-mêmes une côte. Là.
Oh mon Dieu, oui.
Fait qu'on va mettre des clous, des marteaux, puis des affaires qu'on va avoir achetées chez Mike de chez Rona d'un seau en avant de l'hôpital, puis on va demander aux gens de le réparer eux-mêmes.
Ça, on va partir simplement un endroit où tu vas pouvoir aller chercher ta propre trousse de médecin. Puis t'auto-soigner. Ça pourrait être... Oublie pas qu'à un moment donné, quand les urgences débordent, on dit aux gens de se soigner chez eux, là, puis on leur donne des conseils. Là.
On va te montrer comment te recoudre le bras toi-même.
C'est donc ça de l'autonomie. c'est les études de crédit donc, qui se poursuivent encore aujourd'hui. Il y avait aussi celle sur la sécurité publique. Puis c'est dans Le Soleil ce matin qu'on rapportait qu'on avait choisi de retirer le détecteur de drones qui est à la prison de Québec parce qu'il y avait trop de faux positifs. C'est la réponse que François Bonnardet a dit un peu plus tôt aujourd'hui quand il a été questionné par rapport à tout ça. Il a dit qu'il y aurait de nouvelles technologies qui seraient ajoutées dans les prochains mois, qu'elles seraient annoncées d'ici la fin de la session parlementaire le 6 juin. François Bonnardel, qui en a profité pour utiliser son expression préférée depuis plus de 15 ans, soit « ça m'écœure », il a dit que ça l'écœurait royalement, cette histoire-là. J'ai recherché, quand je te dis que c'est son expression préférée, en mars de cette année, quand les partis d'opposition ont demandé son départ en lien avec le fiasco de Saclay, qui a dit que ça l'écœurait.
Oui, c'est vraiment écœurant de demander à quelqu'un d'incompétent de quitter. C'est, moi aussi, ça me dégoûte.
Quand en décembre 2024...
C'est épouvantable!
monsieur le ministre!
Quand en décembre 2024, les médias ont fait la couverture des détenus qui continuaient à gérer leurs affaires en prison, il a trouvé que ça l'écœurait aussi. Quand en octobre 2024, on a lié des ados au crime organisé, ça l'écœurait beaucoup, mais on peut remonter très, très loin. Soit la tragédie de Lac-Mégantic, les opérations ferroviaires avaient repris dans les jours qui avaient suivi l'incendie. Et ça écœurait aussi François Bonnardel.
Bonjour, j'aimerais ça rester dans l'anonymat. Moi, je suis un gars qui passe des drogues au centre de détention. Moi, ça me dérange pas qu'on spotte pas les drones parce que on est une couple qui n'ont pas le goût de retourner aux méthodes d'avant. On aime ça en astier les drones, nous autres, là, on va te le dire.
Hein? Des exclusivités de même, vous n'avez pas ailleurs.
Non,
hein?
C'est
la vraie vie, là. Tu sais, la technologie, ça a amélioré nos vies, mais jamais autant que les passeurs de drogue.
Ah, oh, qu'est-ce que j'avais d'autre là-dedans? Ah, oh, ça, c'est dégueulasse comme histoire.
Puis ça t'écœure?
Ça m'écœure! Je suis François Bonnardel. Non, on est du côté du palais de justice. On avait déjà parlé de cette histoire-là. Un acupuncteur qui avait agressé une cliente qui était dans la soixantaine. Benzing Zhu, un gars qui continue de nier les faits, présente aucun remords. Et du côté de son avocat, on avait essayé de faire miroiter le fait que comme il n'y avait pas d'antécédent judiciaire, que l'homme de 72 ans devrait purger sa peine dans la collectivité. Du côté de la couronne, ce qu'on demandait, c'était un 18 mois de détention et finalement, le juge a tranché ça. C'est 15 mois de détention ferme pour des attouchements sexuels à une cliente lors d'un traitement. Puis elle avait parlé de ça en disant qu'elle avait eu la peur de sa vie. Moi, je me suis jamais fait faire d'acupuncture, mais t'es assez vulnérable quand t'es plein de petites aiguilles plantées partout. Et
Toi, Audrey? As-tu déjà essayé?
De l'acupuncture. J'ai une terreur de ça. J'ai eu ça une fois dans les bras, ces aiguilles-là, à cause de ma paralysie. Là.
Puis ça a-tu marché?
Ben, ils ont été capables de détecter le problème, mais je suis jamais allée sinon me faire faire des traitements.
Okay.
Et pourtant...
Trop peur.
Elle est prête à essayer le suif de bœuf dans sa face, ouais, mais les aiguilles. Ouais. C'est pas assez présent sur les médias sociaux. Donc, pour revenir à cette triste histoire-là, il y avait profiter de ce moment-là pour toucher les parties intimes de sa cliente en février 2023. C'était, oui, une première condamnation au criminel, mais son conseil de discipline l'avait sanctionné en 2013 pour des attouchements qui avaient été faits à 4 patientes, mais ça ne s'était pas rendu en cours à ce moment-là. Puis quand, un matin, ça a été le moment de lui mettre les menottes puis de l'amener en cellule, il s'est comme effondré. Il a fallu qu'on prenne soin de lui avant de l'amener avec le personnel de la détention.
Continue.
Devra respecter une probation de 2 ans après avoir purgé sa peine, devra donner un échantillon d'ADN pour la banque des génétiques des autorités, va être inscrit pendant 20 ans au registre des délinquants sexuels. Il y a en plus de ça une poursuite au civil qui a été intentée par la dame en question en décembre dernier. Elle lui réclame 175 000 $ pour atteinte illicite à l'intégrité et à la dignité de sa personne. C'est un dossier qui est toujours en cours supérieur.
Il y a des mises à jour qui ont été faites sur le Wikipédia de Bernard Drainville. Je vais vous tenir au courant tout au long de l'émission. Alors, on recommence. Bernard Drainville, né le 6 juin 1963 à la Visitation, ça c'est clairement pas contesté, là, est un journaliste, animateur de radio et homme politique québécois, héros responsable de la lutte contre l'éradication du bullying dans les écoles québécoises et en recherche du leadership de la CAQ.
C'est excellent.
Après, c'est quand il y a plusieurs modifications sur une courte période que Wikipédia bloque la page.
Hein? Ah ouais? Oui, oui. OK, fait allez-y mollo. OK, on va en faire une à demi-heure à peu près.
C'est beaucoup une à demi-heure.
Faites pas la file non. Pour aller. On va tout scraper le fun sinon. Là.
Non, faut que ça reste là discrètement. Faut pas que ça se rende à lui. Je termine avec ça. Bon, l'abbé Dutson qui est en train de fermer au moment où
Lain
on Hudson. Se parle. Lain Hudson, c'est ouais. Ça, exactement.
T'es éliminé, hein, Lain Hudson?
Oui, exactement. Ouais. En même temps. Les magasins Labbé. Actuellement, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on a une espèce de processus, si on veut, de vente de la propriété intellectuelle ou encore même des installations. Selon plusieurs médias, Canadian Tire aurait fait une offre pour des actifs de Labbé. J'ai l'impression qu'on veut peut-être garder l'image de marque qui vient avec ça. C'est 300 ans plus d'histoire. Là.
J'aime bien mieux l'odeur de char chez Canadian Tire quand je vais magasiner que l'odeur des parfums cheap chez Labbé.
Toujours.
Est-ce qu'on peut amener l'odeur de pneus neufs chez les labés revampés par Canadian Tire?
Malheureusement, ma nouvelle dit l'inverse. Ce serait le département des parfums qui serait installé juste à côté des petits sapins sans bord. Juste pour toi,
je
Denis.
Je sens que c'est collé dans les murs, sérieux, cette odeur-là.
Il est 14h48, 88-971-1021 pour nous rejoindre. La meilleure musique de la business est à Boulevard, évidemment. Sous le soleil à 10 degrés, Imagine Dragons avec Whatever It Takes dans le retour.
Oh my God, c'est sûr que je pète une coche comme si j'étais à Woodstock.
Gravel dans le retour avec Denis, Véro et Audrey.
Ça roule les boules.
Gravel dans le retour, yeah.
Jay Scott avec Woodstock. Imagine Dragons avec Whatever It Takes. La meilleure musique de la business, c'est à Boulevard 102.1. Allez, goûtez nos nouveautés, blvd.fm et également l'application Boulevard. Toute la fin de semaine, à partir de demain soir, 18h, ben on est en mode musique pour vous aider à nettoyer le terrain, vous accompagner pour ceux qui se lèvent de bonne heure, pour le sport des gamins et ainsi de suite. Dan Caron s'installe demain, 18h, pour le garage à Dan, puis après ça, ben dès 7h le matin, on est en programmation musicale avec vous autres. Ça débute avec le Rock and Chill d'Audrey.
Yes.
Samedi et dimanche. Puis après ça, ben le Boulevard du Rock. Vous avez nos chums Matt Marcotte et Reg Laplanche également pour vos fins d'après-midi de week-end. Il y a de la circule, Audrey.
Si vous êtes sur la capitale en ce moment, direction Est, ça commence à ralentir à la hauteur de Robert Bourassa. Toujours des problèmes dans la bretelle de Laurentienne-Sud vers la capitale Ouest. Il y a quelques ralentissements aussi à prévoir si vous êtes sur la 20, direction ouest à la hauteur de Taniata. Évidemment, quoi que ce soit d'autre, vous gênez pas. Vous gênez pas. Ça passe par le 88-971-1021 texto.
J'ai rarement vu une élimination aussi sereine de la part des partisans, du personnel, des médias et du Canadien de Montréal en tant que tel.
C'est vrai. Il n'y a même pas un char qui s'est fait envirer de bord. Hey. Aucune poubelle qui a été mise en feu.
D'habitude, c'est plein de bords. C'est la catastrophe. Nous devrons échanger le club. Nous n'allons nulle part, sire.
Il faut mettre le coach à la porte.
Là, tout est plus cool. Et je vous comprends, pour être parfaitement honnête. Je l'avais écrit, je pense, sur Facebook la semaine passée. Il n'y a rien de gênant à perdre en première ronde contre les Capitals de Washington. Et j'ai tellement aimé leur attitude dans les points de presse, particulièrement le coach des Capitals, qui pendant 3 minutes, avant de parler de son équipe, il a parlé de Marc Savard en lui souhaitant bonne retraite.
C'est pas Marc Savard, mais c'est correct.
C'est Joe Savard. Denis Savard. Oui, le gars du...
David Savard.
Ouais, celui
c'est
qui fait
Joseph
des...
Savard.
Non, c'est Denis Savard, numéro 18. Il a joué pour le Canadien. Lui, je suis correct, hein, Max?
C'est ça, c'est pas Stéphane?
Oui, Denis, Serge. Tout va bien. Continue sur ta lancée.
Pendant 3 minutes, il a salué le talent de l'équipe du Canadien de Montréal. Puis je sais qu'il y a des propos qui ont été mal perçus, là, mais moi, j'ai trouvé que Tom Wilson a été correct dans son point de presse aussi, en rendant hommage. Il dit, regarde, ils nous ont brassés, on s'est fait brasser, on a brassé aussi. Ça a été une grosse série. Max, il n'y a pas grand monde en peine aujourd'hui, là.
Il y a Yann Marceau, là, que j'ai pas trop compris dans les corridors aujourd'hui, qui lui capotait un peu. Là, non,
mais il voulait choquer encore une fois.
Oui, ouais, peut-être que c'est ça. Mais, mais non, pour vrai, tu sais, hier, le Canadien, des fois, c'est un peu injuste parce que hier, le CH a probablement connu son meilleur début de match de la série.
Ouais.
Nick Suzuki a raté un but qu'il aurait probablement pas raté une fois dans les dernières semaines. Puis là, je pense qu'il s'attendait pas à la passe magistrale de Demidov qui est comme arrivée trop vite. Puis là, il se pognait dans ses patins. Puis là, les caps sont scorés une fois, deux fois. Puis c'est comme là que ça a un peu débarqué. Parce que le début de match, là, je me disais, OK, on va avoir une game. Puis d'après moi, ça s'enligne pour un match 6 à Montréal. Finalement, on a eu un bon match. Puis même à 3-0 Washington, après 40 minutes, tu sais, je ne vais pas dire que j'y croyais fort, mais je me disais, avec la façon de jouer du Canadien, avec les chances de marquer, je peux pas dire que j'ai complètement abandonné non plus. Là. Finalement, Thompson, comme il a fait pas mal toute la série, à part quand il a faké pour sortir de la game, a été bon. Puis non, c'est ça. Puis c'est drôle, le mot « serein » que tu as utilisé est parfait parce que moi, ça a été un peu ça ma réaction. Puis j'étais quasiment surpris de moi-même à la fin de la game de même pas être fâché, même pas être triste. Juste comme, hey, ben, sais-tu quoi? C'était le fun. Puis c'est
tu
de l'expérience.
Dit, c'était du gravy,
puis
c'était du bonus, ce bout-là de saison.
Exactement. Puis bon, j'avais des petites larmes dans les yeux quand on voyait David Savard, Denis,
oui.
Qui quittait la patinoire pour une dernière fois parce que lui a annoncé sa retraite.
C'est pas David Krejci, t'es sûr?
Non.
J'essaye de suivre, là.
Mais non, c'est ça. Il y a ça qui a été un peu plus émotif.
Ben
mais à
oui.
part ça, c'est, l'émotion que j'ai le plus, c'est quasiment d'avoir hâte au mois d'octobre prochain.
C'est, c'est bizarre parce que, tu sais, mettons, dans les 20-25 dernières années du Canadien, là, il y a des éliminations qui se sont faites plus loin puis qui faisaient plus mal puis tu n'avais pas confiance en l'année d'après. Tu voulais échanger le goaler, tu voulais échanger Subban, tu voulais échanger Kovalev, tu étais parti en panique. Là, c'est pas ça, mais c'est pas ça pantoute. Les gens aiment leur équipe, aiment le noyau de jeunes puis ça laisse présager le mieux. Puis juste pour peut-être faire une image, je pense que la réussite du Canadien cette année, c'est d'avoir commencé la saison. Puis l'objectif, c'était d'être dans le mix. Puis ils terminent en première ronde des séries, sont dans le mix, mais plus dans le même mix.
Non.
Là, ils sont dans le mix de « Hey, c'est une équipe à prendre au sérieux, c'est une équipe qui peut surprendre en série, puis c'est une équipe qui a le droit aux honneurs comme bien d'autres. » Puis ça paraît dans les discours des équipes adverses aussi.
Oui, on a vu qu'il y avait un gros respect de la part des Capitals. Tu as parlé du coach qui, encore une fois, a été captivant dans ses propos.
Il dit que ce n'est pas une série de 4-1 qu'on vient de gagner. C'était plus serré que ça.
Ça, tu sais, hier, c'est ça que je disais. Cette série-là, hier, aurait quasiment pu être 3-1 canadien. Là. J'exagérais un peu, mais le CH méritait pas de perdre cette série-là en 5. T'as mentionné les propos de Tom Wilson aussi. En effet, moi, j'ai grincé des dents un peu quand il a parlé de...
Des coups de cochon, là?
Des coups de chiffre des joueurs du Canadien. T'aurais pu la garder pour toi, celle-là, mon Tom.
Ou dire que vous aviez été cheap shot aussi, là, particulièrement
ben
Tom Wilson. Là, come on,
parce que là, comment il l'a dit, c'est comme si les pauvres Capitals étaient des grandes victimes et là, ils devaient se protéger sur la glace.
Vous allez le faire pleurer.
Oui, ben c'est ça. Puis là, il ne pouvait pas se concentrer à jouer au hockey parce qu'il fallait toujours qu'il se défende et qu'il soit prêt à recevoir des coups salauds. mais c'est ça. Mais à part ça, en effet, il a quand même montré du respect envers les joueurs du Canadien dans ses propos. Maintenant, on regarde vers l'avenir. Puis on a vu en même temps des lacunes importantes là, chez le Canadien.
Oui, t'as raison.
Autant dans l'alignement qu'on a vu qu'on manquait de profondeur, autant on a vu des lacunes dans le système défensif. Tu sais, la couverture défensive tout au long de l'année, on a comme vu qu'il y a des joueurs qui n'avaient pas trop l'air à comprendre c'était quoi le système, puis c'est ressorti encore une fois en série que des gars échappaient leurs joueurs, puis que ça a causé des buts. Puis, fait qu'est-ce que cet été, ça va être de changer de système défensif du côté du Canadien? Est-ce que ça va être de mieux préparer les joueurs la saison prochaine pour ce système défensif-là? Ce sera au coach de voir, mais je pense qu'on n'est pas si loin de faire des gros pas en avant. Puis tu sais, tu regardes l'attaque en ce moment, tu peux te dire, ouais, on a vu qu'il y avait le premier trio puis pas grand-chose d'autre. Mais moi, l'exemple que j'ai donné ce matin, c'est la défensive, certains bouts de cette année, là, c'était tout croche aussi. Puis oui, ça aurait été tentant de se dire, hey, là, il manque 2-3 bons défenseurs dans ce brigade-là. Ce que ça a pris, c'est un Alexandre Carrier qui est acquis, qui prend des grosses minutes.
Hey, il a joué 23 minutes hier, Alexandre Carrier.
Exact. Puis dans l'état où il était, là, on se doute qu'il n'était vraiment pas à 100%.
Un guerrier.
Mais tu sais, c'est ça. La présence de Carrier a comme remis tout le monde dans la bonne chaise. Puis là, wow, une brigade défensive qui était bien ordinaire, avec tout le monde un peu plus dans la bonne chaise, ben ça devient une brigade défensive qui a bien du bon sens. Puis là, on a les jeunes Logan Mailloux, David Rennbacker qui s'en viennent. Fait que oui, en attaque, va avoir au moins un gros morceau à aller chercher, mais je pense qu'on n'est pas si loin de ça, de passer d'équipe de faire les séries de première ronde à vraie équipe qui a des chances de gagner.
J'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui se sont attachées aux joueurs que le Canadien nous a présentés cette année. Va-t-il y avoir des départs brisqueurs au courant des prochains mois, justement, avec ces jeunes-là qu'on va faire monter?
Ben, brisqueurs, ça dépend. Moi, honnêtement, des gars comme Yoel Armia puis Christian Dvorak, sans dire que ça me briserait le cœur, ça me ferait un petit pincement, ouais, je pense, des voir quitter Montréal. Moi, c'est des gars que j'ai toujours bien appréciés, puis que même quand ils étaient comme devenus un peu des souffres-douleurs à Montréal à cause des attentes qu'on avait par rapport à ce qu'ils donnaient, moi, j'ai toujours aimé ce que ces gars-là donnaient au club. Je pense qu'en ayant des attentes à la bonne place, on pouvait vraiment apprécier leur travail. Je pense que dans les dernières semaines, on a apprécié leur travail. Moi, je pense qu'il y en a un des deux qui va rester. Je pense que ce ne sera pas les deux qui peuvent devenir agents libres. C'est pour ça que je parle d'eux particulièrement. J'ai hâte de voir, tu sais, un Dvorak qui est comme centre de deux, troisième trio, mais pas assez bon pour un deuxième. Là, il va-tu vouloir rester sur un troisième? Armia, il va-tu vouloir rester sur une 4? À quel prix? Moi, ça me ferait un petit pincement de les voir partir, ces deux-là.
Demain, en deux temps, il y a le bilan du Canadien lui-même, demain en avant-midi, puis vous dire que demain en après-midi, on va parler avec notre ami Pierre Houde, évidemment, qui aura sûrement beaucoup de choses à dire sur cette fin de saison et cette élimination du Canadien de Montréal. Passe un message à ton chum Reg, Max, s'il te plaît. Je comprends que Morning Man à Québec, on aime ça brasser de la marde, là, mais clairement, il est allé trop loin avec sa prédiction sur les Bruins et le Canadien. Je peux pas l'accompagner là-dedans, malheureusement. C'est l'autre bord de la ligne. Moi je peux pas aller là.
Ouais, Reg qui a lancé ce matin, puis il l'endossait très pas tant que ça. Là,
ça manquait de conviction.
Ouais, pis, disait, là, c'est juste une prédiction osée, là, calmez-vous. Mais il disait qu'en gros, le Canadien allait rater les séries l'an prochain et les Bruins allaient les faire. Le pire, c'est que je suis capable d'un peu embarquer dans la possibilité de la moitié de ça qui est que le Canadien pourrait manquer les séries l'an prochain. Je pense que c'est pas à écarter. Tu regardes les équipes qui ont fait les séries cette année, il y en a pas ben que je vois ne pas les faire l'an prochain. Les Rangers, je reviens avec ça, mais il y a tellement de talent dans ce club-là que on peut pas dire qu'ils feront pas assurément l'an prochain. Les Blue Jackets de Columbus, une équipe remplie de bons jeunes, ils pourraient... Fait que tu sais, à un moment donné, il y a un certain nombre d'équipes qui peuvent faire les séries. Ça va en prendre qu'ils feront pas. Fait que est-ce que le Canadien pourrait rater? Je pense que c'est pas impossible l'an prochain. Cela dit, pour moi, que les Bruins fassent les séries, là. Je comprends qu'il y a Pastrnak, puis qu'il est bien bon, puis que la défense est correcte, puis qu'il y a un bon goaler. Je pense qu'il faut oublier ça.
Il y a encore beaucoup de travail à faire. Parlant de travail à faire, Max, c'est quoi la suite pour les Capitals de Washington, les Hurricanes?
Ouais, puis ça va brasser parce que cette année, ça a brassé entre les Capitals et les Hurricanes. Fait qu'un 4-7, là, ça va vouloir s'arracher la tête assez solide, merci.
Ça va être bon.
Ça va être une grosse série, deux équipes qui sont capables de frapper, deux équipes qui ont de la profondeur. Fait que une fois que le Canadien est éliminé, bon, c'est sûr qu'on garde peut-être les matchs avec moins d'émotion, mais va rester du tabarouette de bon hockey. Puis cette série-là, Capitals Hurricanes, ça va être du tabarouette de bon hockey.
Il en reste ce soir du tabarouette de bon hockey. La guerre de l'Ontario qui a pris un autre tournant dans les 48 dernières heures. Est-ce que les Sénateurs vont replacer les Maple Leafs où ils sont le mieux, c'est-à-dire se faire éliminer en première ronde?
Mais là, c'est sûr que le doute est entré dans la tête des Maple Leafs. Oui. C'est certain.
C'est le 3-2 le moins confiant de première ronde que j'ai jamais vu de ma vie parce que les gens l'oublient peut-être. Les Maple Leafs mènent cette série-là 3-2 puis sont à une victoire d'éliminer les Sénateurs.
Ouais, puis là, t'es à Ottawa, t'as échappé le dernier match, t'as été blanchi chez vous à Toronto. Puis tu sais, l'historique, veut pas, même pour les gars qui étaient pas là dans les dernières années, c'est sûr que tu l'as dans la tête, puis particulièrement pour des Austin Matthews, des Mitch Marner, des John Tavares, des William Nylander, nommez-les, les Morgan
Riley. Ils savent
tout,
mais oui.
Ils savent. Là, ça va être de voir qui là-dedans, qui dans ce gang-là va être un leader ou des leaders, puis qui va se lever, puis qui va aller en scorer des buts à soir, puis qui va aller sortir un gros match à Ottawa à soir pour éliminer les Leafs. Je pense que moi, éliminer les Sens, pardon. Moi, je pense que j'avais mis Leafs 106 dans mes prédictions. Mais si les Sens réussissent à aller la gagner à soir puis retourner à Toronto, là, c'est sûr que les Leafs vont shaker toute la game, le match numéro 7.
Il y a trois autres équipes qui font face à l'élimination ce soir en rafale, Max.
Le Wild du Minnesota qui pourrait être éliminé par les Golden Knights. Puis moi, le Wild, c'est l'équipe derrière qui je pense que je me range le plus ce soir, qui mérite le mieux. On a échappé le dernier match à cause d'un hors-jeu. On avait scoré, il restait une minute pour prendre les devants 3-2. On avait la victoire. Il y avait un hors-jeu d'un petit centimètre. On est allé en prolongation. On a perdu. Moi, je suis plus capable de sentir les Golden Knights. J'espère que le Wild va aller chercher la victoire. Dallas contre Colorado. L'Avalanche qui pourrait être éliminée, ça ferait mal, ça, parce qu'on a payé le gros prix pour s'améliorer à date limite. Karl Makar connaît des séries difficiles. 2 points seulement en 5 matchs. 2 mentions d'aide. Karl Makar, 2 buts, 2 passes à soir. Checkez bien ça. Et dès 22h, Oilers qui pourrait éliminer les Kings. Moi, je l'ai dit, là, Oilers, c'est l'équipe sur qui je pense que je mettrais le plus d'argent ce soir. Je suis même pas stressé. S'il faut qu'ils gagnent 7 à 6 parce que le goaler fait pas le job, ils vont gagner 7 à 6.
Essuyez vos larmes rapidement, partisans du Canadien. Il y a encore du gros hockey ce soir. Merci, Max.
Merci, bye.
Salut, 15h09 à Boulevard 102.1. On fait une courte pause, on revient. Quoi que ce soit sur les routes, 418-971-1021. On est plein soleil à Québec, mais c'est un peu frais à 10 degrés avec le vent d'en face.
Salut la gang!
Chantal Gravel, opticienne.
Vous êtes en train de magasiner votre nouveau véhicule. Allez faire votre tour du côté des concessionnaires de la Force Kia. Kia Québec, Kia Sainte-Foy et Kia Val-Bélair. D'abord, vous allez avoir droit à un service absolument exceptionnel de A à Z. Je le sais, j'ai fait le Z hier, je suis allée chercher ma nouvelle voiture. Mais en plus de ça, c'est dans des garages qui sont absolument magnifiques. Vous allez avoir un grand choix de véhicules. On va vous écouter, on va vous conseiller, on va répondre à vos besoins. C'est en plus de ça un milieu de travail tellement convivial. Fait que si vous êtes en train de chercher une nouvelle job, vous voulez changer de défi, vous travaillez en comptabilité, puis vous cherchez une nouvelle place pour vous établir, Kia Québec, Kia Sainte-Foy et Kia Val-Bélair recrutent à ce moment-ci. Adjoint contrôleur des postes en comptabilité, plus encore. Vous allez vous joindre à un groupe qui est en pleine croissance à part de ça. Puis l'ambiance sort de l'ordinaire, je vous jure. Et puis en plus de ça, bien, vous allez avoir des opportunités à long terme. Fait que vous allez pouvoir vous attacher, il n'y aura pas trop de problèmes. Ça vous parle tout ça, je vous invite à envoyer votre CV à cv@commercialforcekia.com.
Pour joindre notre quotidien, votre actualité, au rythme de ce qui se passe dans notre ville et partout ailleurs dans le monde.
Bring the country together.
Mettant en vedette plein de dudes pis de dudettes bien sympathiques qui connaissent leur affaire.
You didn't know it until now.
Aucun film.
Dans l'auto, à la maison ou au bureau, tout le temps, c'est Boulevard 102. Gravel. Dans le retour.
A gros show.
No, a proof is a proof. What kind of a proof? It's a proof. A proof is a proof. And when you have a good proof, it's because it's proven.
Thank you very much.
On a gagné quelques degrés dans la dernière heure. On a 13 degrés présentement à Québec. Le maximum prévu est de 14. Ennuagement ce soir et cette nuit. La pluie débute à l'aube, se poursuit demain. 10 à 15 mm au sol. Des vents en matinée, moins en après-midi, maximum de 10. Samedi, nuageux, maximum de 15. Dimanche, du soleil. Maximum de 16 degrés sur les routes, Audrey.
Capitale, direction Est, hauteur Robert
Bourassa. Ça va mieux, toi?
Tu trouves que ça va mieux?
Bien, au niveau vocal, puis au niveau sinus, là.
15h15, là. Hier, la débandade est arrivée autour de 17h.
Ouais, mais hier, à cette heure-ci, elle avait...
des Kleenex dans le nez.
Oui, elle avait des Kleenex dans le nez.
C'est vrai, j'avais oublié.
mais oui, de mieux en mieux, j'ai acheté des petites pilules, ça aide aussi.
Bon.
Des rémusinus, fait que ça fait une bonne partie de job.
Ça fait la job, mais tant mieux,
Je vous souhaite de ne pas la pogner.
Je te coupe plus, là, repars-nous ça.
C'est bien correct. Capitale, direction Est, hauteur Robert Bourassa, c'est pas mal au ralenti. Direction Ouest, ça s'est entamé à la hauteur de Laurentienne. Si vous êtes à l'entrée des ponts direction sud en ce moment, c'est quand même difficile de circuler. Sinon, ben, c'est la 20 ouest où commence à y avoir un léger ralentissement là, entre Chemin des Îles et Taniata, évidemment. Quoi que ce soit d'autre, 88-971-101 par texto.
Tu sais comment est-ce qu'on est niaiseux des fois, hein? Audrey m'a envoyé un message. Puis elle m'avertit, ouvre les pas, c'est pour après l'émission.
Ouvre les pas, c'est une surprise.
Mais tu sais comment est-ce qu'on est fait, hein? Fait que là, je l'ai ouvert, puis j'ai répondu.
Ouais.
Alors que ça demandait pas de réponse.
Là,
bref.
Je viens de t'en envoyer un en cap là qui dit « Ouvre pas le message
». Je vais te répondre « OK ».
OK, ben, génial. T'as-tu compris? C'est ça qui est fun avec toi, c'est simple.
Hey, des petites nouvelles de politique qui sont rentrées dans la dernière heure. Puis là, il y a un recomptage qui change la donne électorale.
Exactement, parce qu'on parlait du Parti libéral du Canada qui demeurait minoritaire de toute manière, mais qui était à 3 sièges de la majorité. Bien, finalement, le Parti libéral du Canada est à 4 sièges de la majorité parce qu'il y a eu recomptage dans Terrebonne. À l'origine, il y avait vraiment une espèce de proximité entre les deux. Tu avais eu 35 votes de plus pour le Parti libéral dans cette circonscription-là. Sauf que là, en faisant le recomptage, le Bloc avait fini deuxième et cette fois-ci, le Bloc a fini devant avec 44 voix de plus.
Oh.
Fait que clairement, les problèmes d'addition qu'il y a eu lors du premier décompte étaient là.
Mais là, ça oblige un recomptage.
Je ne crois pas.
Ben là.
Je pense que quand il y a un recomptage, on met les règles tellement plus serrées que la marge d'erreur n'est pratiquement plus là.
Quand je travaillais au centre d'achat, là, au magasin de disques, là, quand je comptais ma caisse puis que j'étais 50 en dessous, puis que je la recomptais, puis que j'étais 20 au-dessus, je te garantis qu'il fallait que je la recompte un autre
ça,
fois.
Ça, je comprends.
Là.
Mais si, mettons, après ton premier comptage qui n'était pas bon, il recomptait avec un adulte dans la pièce à côté de toi, en principe, tu n'es pas obligé d'en refaire un autre. Tu comprends la nuance à ce moment-ci.
Ouais.
Donc, le chiffre final, c'est donc 168 sièges pour le Parti libéral et 23 sièges pour le Bloc. Reste que le Bloc en a perdu beaucoup, mais au moins, ils sont pas à 22. L'autre nouvelle dans la politique, c'est qu'il y a eu une réponse un peu plus tôt aujourd'hui à une publication que le Parti conservateur du Québec a fait au courant de l'avant-midi de mémoire. On sait qu'il va y avoir une partielle du côté d'Arthabaska. Éric Lefebvre, qui était député de ce côté-là, qui, lui, s'est fait élire au fédéral. Il faut que François Legault déclenche la fameuse partielle. C'est toujours un peu long dans son cas à lui.
Tout est long avec François
Legault. François Legault. Puis du côté du Parti conservateur du Québec, on sait que la joute va se faire entre la CAQ, le Parti québécois et le Parti conservateur du Québec. Et c'est Éric Duhaime qui a l'intention de se présenter là. D'ailleurs, c'est lundi à 14h qu'il devrait l'annoncer.
C'était le temps, là. Il avait laissé passer l'autre partiel, puis dans ma tête, il n'y aurait pas dû, là, mais là, c'est le temps d'y aller. Là.
Et là, le Parti conservateur a remis en face de Paul Saint-Pierre Plamondon des propos qu'il a tenus lors de l'élection générale de 2022, alors qu'il avait d'abord parlé des sondages en disant que si un parti obtient 15% des sondages, il mériterait d'être entendu à l'Assemblée nationale, il devrait avoir un bureau. Puis quand il y avait eu l'élection, il a mentionné qu'un parti qui avait 13% au suffrage devrait pouvoir être entendu aussi. Et là, aujourd'hui, le Parti québécois présentait sa candidature dans Arthabaska. Puis le Parti conservateur a comme fait, bien là, il voulait qu'on ait un siège, mais il présente un candidat alors qu'il pourrait nous laisser la place.
Ah non, non, je suis pas d'accord. C'est pas les mêmes circonstances. T'as pas à céder ta place.
Je suis tellement d'accord avec toi, là.
Je veux dire, tu représentes des idées, t'as quelqu'un à présenter qui représente ton parti. T'enlèves pas un choix démocratique à la population pour laisser passer quelqu'un, non?
Je suis à la même place que toi par rapport à tout ça.
Paul Saint-Pierre, Plamondon aussi, j'imagine.
Oui, parce que tantôt, on l'écoutait en point de presse quand tu disais, hey, on va présenter un candidat qui va servir la population. T'sais, on n'est pas là pour faire une faveur. T'sais, on a quelque chose à présenter. Puis le Parti québécois n'est pas cave aussi. Là. Toutes les partielles à date, ça a bien été pour eux autres. Ouais. Ça se peut que ça aille bien aussi de ce côté-là.
À chaque fois qu'il en gagne une de plus, ouais, ça te donne l'impression que le prochain premier ministre, c'est Paul Saint-Pierre, Plamondon. Puis pas Bernard Drainville.
Fait que ce qu'on lui reprochait, c'est que ses beaux principes s'étaient effacés quand des gains partisans étaient en jeu. Bof. Ce qu'on appelle de l'opportunisme. Nous, on appelle ça de la politique.
Ouais,
c'est
ouais,
ça
ouais,
la joute politique. C'est, t'as une opportunité d'avoir un candidat, de faire rayonner ton parti, de faire rayonner tes idées. Si elles plaisent à la population décidera. Si la population du secteur d'Arthabasca pense que les idées du Parti conservateur, de son candidat et chef Éric Duhaime valent la peine de rentrer à l'Assemblée nationale, ce sera à eux de se prononcer.
Puis ça n'enlève rien à la suggestion de dire quand tu as 15 % des suffrages, tu devrais avoir un bureau à l'Assemblée nationale.
Tout à fait, effectivement.
Je pense que tout ça fit là, d'une façon ou d'une autre.
Je pense qu'il ne faut pas mélanger la démocratie à une situation comme celle qui avait prévalu en 2022.
Mais là, c'est quand qu'on confirme tout ça, parce qu'on le sait déjà là, que Duhaime va se lancer. C'est lundi?
C'est lundi à 14h que lui va faire son, okay, son point de presse. On dit que le discours du candidat, ça me fait rire, il n'aime pas, va débuter à 14h30 et sera suivi d'un point de presse.
Thank you! Il est 15h21, on a fait la météo tantôt. Là.
La météo présentée par Sobab. Le temps est doux et ça tombe bien. Nos cafés sont aussi réconfortants chauds que froids. Profitez du printemps une gorgée à la fois. Cafésobab.com.
Fall Out Boy, my songs know what you did in the dark. À Boulevard.
Gravel dans le retour. Gravel dans le retour.
À 15h24, on va se réchauffer un peu parce que l'élection municipale s'en vient lentement mais sûrement. À la mi-septembre, on sera officiellement en campagne électorale du côté de la ville de Québec. Et aujourd'hui, c'est la deuxième tournée de Sam Ahmad. Il sera en studio à compter de 16h. Vous avez des questions? Ben, on va faire le relais. 418-971-1021. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder un événement sportif ou autre? Puis arrive quelque chose, puis votre première réaction, c'est de dire « c'est sûr qu'il est mort ». Plein de monde vont parler de Max Pacioretty, c'est sûr et certain.
Ça, c'était sur le coin de la bande, là.
Exact. Quand Zdeno Charol l'avait chargé, ouais, solide, et la tête de Max Pacioretty était rentrée pleine vitesse sur le coin de la baie vitrée, ouais, et de la porte, si je me souviens bien, il y en a beaucoup qui ont pensé qu'il ne se relèverait pas. Moi, je ne sais pas pourquoi, peut-être mon côté partisan, alors qu'à l'époque, j'étais encore partisan du Canadien, mais je l'ai vu live, pas sur place, mais à TV en direct. Quand Patrice Bergeron a pogné sa commotion cérébrale, mm-hmm, je ne sais pas pourquoi, mais ma première réaction, c'est bon, on vient d'en perdre un. Parce que dans le temps, il n'y avait pas beaucoup de traitements pour les commotions cérébrales, puis on se disait, ça va-tu prendre un mort pour qu'il soit plus sévère? Tu sais, quand tu charges quelqu'un qui a la tête baissée puis il est à deux pieds de la bande, c'est sûr que ta tête va arriver à pleine vitesse sur la bande puis que tu vas finir tout croche. Puis je me souviens de la façon que Patrice Bergeron était tombé, j'ai fait « Hein, il est mort ». Puis finalement, il a été absent pendant plusieurs mois. Mais on a évité le pire.
Ceux qui regardent du sport automobile, chaque fois que tu as un char qui sort d'une manière spectaculaire, tu t'attends à ce qu'il y ait une mauvaise nouvelle, qu'on arrête la course, puis qu'on annonce finalement un décès, puis c'est arrivé à quelques reprises.
C'est-tu Romain Grosjean, il y a 2 ans, qui est sorti de piste parce que tout le monde nous parle, je pense, du même incident, du même accident.
Le char a pris en feu.
Ouais, c'est ça.
Oui.
C'est ça, Romain Grosjean?
Oui, c'est Romain Grosjean. Je me souviens de ces images-là.
Ouais.
Moi, tu sais que j'adore regarder les Jeux olympiques. Là. Quand ils prennent une fouille en ski alpin,
Ouais.
Tu les vois déraper, puis après ça, rentrer dans l'espèce de petite clôture en plastique, puis qu'ils ont plus la... les skis chacun de leur bord. T'as l'impression que le corps se désarticule. Le nombre de fois où je me suis dit, ça y est, ils vont nous annoncer un mort.
Il n'y en a pas un qui est mort d'une course de bobsleigh ou de luge.
En bobsleigh,
il était
raison.
Parti pleine vitesse, puis on voyait les reprises.
C'était un Henry Fould, je pense.
Il y a le gardien de but, Clint Mollerchuk, aussi, qui avait donné la frousse à tout le monde, parce que c'est rare qu'on voit beaucoup de sang sur une patinoire. Et lui, c'est un patin qui lui avait sectionné une artère dans le cou, puis il s'est retrouvé dans un lac de sang. C'est un miracle qu'il ait survécu à ça.
On nous parle de Yann Laperrière qui avait bloqué un tir puis reçu la rondelle juste derrière la tête, qui n'est jamais revenu au jeu. C'est Jen qui nous parle de ça.
Quand Michael Tam des Remparts avait eu une commotion en 2010 puis qu'il était en grosse convulsion sur la patinoire, nous rappelle Frédéric, il y en a plein des comme ça. Hier, il est arrivé un événement similaire, mais pas avec un athlète sur le terrain, avec un gaucho d'instrade. C'est un match de baseball du côté du PNC Park. C'est les Pirates de Pittsburgh qui reçoivent les Cubs de Chicago. On est en septième manche. Il y a un gaucho très chaud qui est dans les estrades du fond, celles qui sont le long de la clôture. Et Audrey est en train de regarder le vidéo pour la première fois. Elle va pouvoir nous le décrire.
Hey, mon Dieu Seigneur, il est tombé.
Ouais. Il a fait une chute de 21 pieds.
On dirait pratiquement... Tu vois son corps, il est sur l'espèce de barrière là, qui est censée te protéger de tomber. Là, puis il passe carrément par-dessus, il fait une coupe de flip, puis s'écrase par terre sur le terrain.
Il tombe mou, hein?
Oh mon Dieu Seigneur, c'est une guenille.
Quand j'ai vu les images hier, la première fois, quand on me l'a envoyé, je pensais effectivement que c'était une poupée en chiffon qui avait été poussé en bas tellement que ce gars-là tombe mou, puis je comprenais pas comment tu pouvais tomber de cet endroit-là sur un terrain de baseball.
Probablement. Puis ça, je l'ai déjà entendu. Tu sais, on se dit des fois, là, quand il y a des accusations criminelles contre des conducteurs en état d'ébriété, comment se fait que le monde dans l'autre char sont tous morts, puis que lui, il a survécu? Ben, c'est parce qu'il est en état d'ébriété, puis il a le corps tellement mou qu'il absorbe mieux un corps raide qui réagit mal à un effet de surprise. Et c'est peut-être ce qui est arrivé hier, parce que sur le terrain, à voir la réaction des joueurs, des Cubs et des Pirates, tout le monde pensait que le gars était mort. Ça faisait des prières, ça pleurait, ça avait les genoux à terre. Pendant 10 minutes, le match a été arrêté. Parce que c'est allé vite, là. Le gars chaud, il a juste perdu l'équilibre, il est passé par-dessus la balustrade, puis il est tombé. C'est une chute de 21 pieds, c'est le mur du champ droit du PNC Park. Puis pourquoi on sait qu'il mesure 21 pieds? C'est parce que c'est en honneur de Roberto Clemente, qui portait le numéro 21. C'est pour ça qu'on a fait la muraille un petit peu plus haute.
6,4 mètres, si ça peut vous donner une idée. Là. Hey, c'est quand même très haut. Là.
Mais c'est surtout que tu as l'impression justement que c'est une poupée puis que tout est défait. Puis quand tout tu te rends compte que c'est un vrai corps qui vient de tomber, il y a quelqu'un qui est passé par-dessus la clôture pour aller porter secours. Le match a été arrêté pendant une dizaine de minutes. Finalement, le gars a été transporté du côté de l'hôpital. Puis on a confirmé qu'il était... très chaud. Il était avec sa blonde, elle doit être fière. Et
dans les minutes,
tabarnouche que je serais dans tous mes états.
Dans
les minutes qui ont précédé l'incident, en fait, il y a un message qui a été envoyé de quelqu'un qui était 5 rangées derrière ce gars-là, en disant qu'effectivement, il était chaud.
Il avait envoyé un message à la sécurité?
Je ne sais pas s'il avait envoyé un message.
Parce que tu peux le faire. Hein, dans les stades de baseball, tu peux envoyer un message au personnel de surveillance puis dire « Hey, on a un ici là, qui tient... » Ouais, c'est ça, là, qui est en train de scraper la game pour tout le monde.
Lui était là donc avec ce qui semblait être sa blonde et un autre couple d'amis. À un certain moment donné, il a carrément enlevé son T-shirt. Il s'est renversé la moitié d'une bière dessus. Puis quand les pirates ont fait un bon coup, lui a décidé de sauter à partir de son siège, mais il a tellement fait ça vite puis il était tellement chaud que, selon le témoin, c'est là qu'il s'est propulsé en bas du ledge, en bas de la fameuse barrière. Il dit non, il ne l'a pas fait volontairement. Non, il n'y a personne qui l'a poussé.
Il a perdu pied, dans le fond, là, en sautant
trop
haut.
Il était trop chaud.
Sauter en diagonale. Là.
C'est ça.
Moi, je me souviens des feux de la Saint-Jean à une certaine époque où tu avais tout le temps un gaucho qui finissait dans le feu, là.
Il y en a un qui s'était immolé à Québec.
Oui, puis au Saguenay, c'était pareil. Là, ouais. les grands rassemblements, je pense que c'était sur le site de la vieille pulperie.
À Chicoutimi, oui.
Puis t'avais tout le temps un grand feu. Puis quand tu veillais assez longtemps, ben tu finissais tout le temps par en avoir un qui finissait dans le feu. Là.
Hey, le monde est inconscient!
C'est parce que souvent, les feux, il y avait une hauteur qui était supposément passable en sautant par-dessus. Fait qu'il y avait des espèces de pogames.
C'est vrai que ça commençait.
Ça commençait toujours comme ça. Par contre, dans le cas du feu de la Saint-Jean à Québec, le feu était gigantesque. Tu pouvais pas faire ça. Puis c'était en 1991. C'est un homme de 25 ans qui était fortement intoxiqué, qui s'était immolé dans le feu de joie.
Il s'est dit, je vais passer à travers, ça va marcher.
Ah, puis ça avait été une étrange soirée. T'avais un gars aussi qui avait été poignardé le même soir là, par un ado. Le soleil qui avait fait l'espèce de liste, il y a plusieurs années de ça, de tous les événements noirs qui avaient été collés à la Saint-Jean à Québec, puis il y en a eu. La décennie 90, ça a été une décennie difficile pour la fête nationale.
Tu sais, il y a des circonstances où tu es en état d'ébriété, mais en faisant certaines choses, tu t'aides pas. Aller d'un spa en état d'ébriété puis continuer de boire, très mauvaise idée.
C'est con, ça te saoule encore plus.
Le baseball, ce qui arrive avec les estrades, dans le fond, c'est que tu es plein soleil. Puis quand il fait plein soleil, ben le soleil te tape sa tête. Fait qu'en plus d'être en état d'ébriété, probablement quand ça fait deux manches que t'es en bédaine puis que t'as pas un cheveu sur le coco, probablement que t'es gravement insolé, là, en plus du reste, là, tu sais.
C'était au baseball qu'on avait vu ça, Denis, à New York, t'étais avec moi, le match du 4 juillet, où un gars vraiment chaud dans les estrades avait fait un bout de vide de 4 rangées.
Ton match de baseball préféré, si je me souviens.
Mon horrible match de baseball où il y avait eu un rain delay de je ne sais pas combien d'heures.
On avait fait un voyage organisé, puis on allait voir du baseball à New York entre les Red Sox et les Yankees. Et il arrive la pluie, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie.
On ferme le terrain.
La seule raison pour laquelle on décide de ne pas remettre le match, c'est que les Yankees mènent 4-2.
C'est contre les Red Sox en plus de ça.
Oui, puis il reste 3 manches à jouer. Fait qu'ils ont vraiment étiré ça. Résultat, c'était déjà un match de baseball très long. On a été 1h45 à attendre que le match reprenne. Il y en a qui disent que le baseball, c'est plate. Aller au baseball, quand il n'y a plus de baseball, c'est encore pire.
Ça doit être tôle.
Puis tout le monde sent le chien mouillé un petit peu. Là.
Puis pendant ce temps-là, ben, les gens, pour s'occuper, qu'est-ce qu'ils font?
Ils boivent.
Ben oui.
Fait que le résultat, quand le match a repris, c'est là qu'on a vu un gars chaud, justement, là, se balancer. Puis à un moment donné, whoop, il est passé par-dessus bord.
Il a perdu pied, il s'est accroché le pied sur le dossier du siège en avant de lui. Puis pourquoi on a été capable de le spotter? Il était tellement loud, il était tellement bruyant qu'on avait toute la tête tournée vers là. On s'est même demandé à un moment donné si tu as rangé, mais il a dû descendre à peu près 5 à 6 rangées en déboulant. Oui, c'est un peu drôle, Audrey, mais il y avait des gens dans les sièges en avant qui ont mangé le gosse à la tête, par exemple.
Ah, non, ça, c'est pas drôle.
C'est quand même
j'aurais
pas
été
top.
En maudit, là.
Il y a quelqu'un, je vois... OK, c'est ça que tu nous as partagé tantôt, là, tout le descriptif du partisan chaud.
On nous rappelle Iron Maiden au Colisée, le gars qui était tombé.
Lui est mort.
Ouais.
Lui est mort, effectivement. Mmh. Le show de Maiden de 82 ou 83, si je me souviens bien.
C'est dingue chaud. Il dit, j'en ai vu un tomber du mur du parc des canons dans le cours de la montagne.
Ouf!
C'est écrasé à terre sur le trottoir.
Ouf!
Ça, toutes les fois que je vois des gens qui, justement, jouent avec leur vie sur, sur que ce soit les remparts à Québec ou peu importe le muret, je suis comme, ben voyons, Stine.
Mais tu sais, dans un monde où tout coûte plus cher... Il y a quelque chose de fascinant à penser à la soirée d'un gars qui a payé son billet pour être là, probablement entre 125 et 200 $ US. Chaque bière qu'il prend coûte 15 US minimum. Il en prend assez pour se mettre chaud. Résultat, après deux manches, il ne se souviendra plus de rien puis il va se réveiller à l'hôpital avec deux jambes dans le plâtre puis deux bras qui bougent pas.
Une méchante belle dette sur sa carte de crédit.
C'est une expérience qui n'a pas de prix,
c'est
j'imagine.
Incroyable.
Dans les spectacles, là, j'avais en tête le show de Peter Gabriel où j'ai vu quelqu'un de trop chaud partir en civière avant même le début du spectacle, mais au festival d'été, il y a des gens qui vont consommer des speeds ou différentes affaires pour profiter de leur soirée différemment. Ceux qui partent en civière avant même que le show soit commencé.
Il y en a plein, là.
Ça arrive partout.
Ça fait
là.
C'est légion, là.
Je suis allée, c'est l'été passé, au Sun Station à Trois-Rivières, OK? C'est pas une grosse foule. Il y a peut-être comme 5000 personnes.
C'est l'affaire de DJ, ça?
Oh, oui, il y a toutes sortes de DJ qui vont là. Toutes sortes de... Tant qu'ils étaient là l'année passée, entre autres.
Puis t'étais où quand t'as repris connaissance?
Franchement. Non, tu sais, mais mon chum s'est fait piquer. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte, en voulant sortir de la crowd, que les civières s'arrêtaient pas, là, le monde n'arrêtait pas d'aller... Puis on a un auditeur, d'ailleurs, qui travaille sur ces équipes-là pendant les différents festivals au Québec. Puis c'est complètement capoté parce qu'on se rendait compte que, OK, nous autres, on voit rien, on tripe, on a du fun en avant, mais tabarnouche, t'as du monde qui consomme énormément, puis ils prennent par en arrière, ils les amènent, ils font le tour, les civières étaient complètement pleines.
C'était l'hécatombe.
Mais l'hécatombe, puis les shows étaient à peine commencés, tu sais.
15h37, vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. Du soleil, 13 degrés présentement à Québec.
Vous souhaitez déremiser votre moto, votre décapotable ou encore votre véhicule récréatif? Faites-le dans SACLIC, c'est pratique. Vous pourrez prendre la route le jour même en toute tranquillité. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
Vous avez des varices. Vous savez que c'est pas juste une question de look. Hein? Il y a des symptômes qui peuvent venir avec ça, des symptômes de fatigue dans les jambes, d'enflure, de sensations de jambes lourdes. Ça se traite et c'est le temps de prendre rendez-vous à la clinique de phlébologie de Québec. Vous allez être assuré d'avoir le meilleur traitement pour vos varices. On va commencer avec une évaluation complète. Vous allez voir, là, c'est une échographie puis elle est souvent remboursée en totalité ou en partie par les régimes d'assurance privée. Puis ensuite de ça, vous allez être pris en charge. C'est la plus grosse équipe en phlébologie à Québec. 5 médecins phlébologues, infirmiers et infirmières expérimentées, et c'est la seule clinique dans la grande région de Québec à offrir à la fois l'approche médicale et chirurgicale pour le traitement des varices. On offre la chirurgie au laser. C'est également effectué au public, la chirurgie, mais pas celle au laser. Puis celle au laser qu'on vous offre au privé, il n'y a aucun délai d'attente pour la chirurgie. Vous avez des rendez-vous disponibles dès la semaine prochaine, mais la post-chirurgie aussi. C'est un retour aux activités normales et au travail dès le lendemain dans la majorité des cas, au lieu d'un rétablissement de 3 à 6 semaines quand on parle de chirurgie standard. Il y a un suivi étroit avec l'équipe médicale, il y a du financement disponible et c'est parfois couvert par les régimes d'assurance privée. Leur expertise a été référée, reconnue par près de 800 médecins au Québec. La clinique de phlébologie de Québec, c'est la référence pour traiter vos varices. Pour des gens en santé, vous visitez venavecuns.ca.
T'es-tu tanné que ta boîte à lunch?
Il y a des problèmes sur les routes, Audrey.
Oui, il y a des problèmes dans le coin, entre autres, de l'Ange Gardien. C'est un texto qui est entré. On nous dit Boulevard Saint-Anne, secteur Ange Gardien, c'est bouché direction Est. Ce serait des travaux d'Hydro-Québec qui est à la hauteur de Dufournel, si jamais vous êtes dans le coin. Et c'est vraiment direction Est que les dommages sont, je vais le dire comme ça. Si vous êtes sur la capitale, direction Est, il y a encore de gros problèmes entre Henri IV et Laurentienne. Ouest, c'est entre Bourg-Royal et Laurentienne. Des gros ralentissements à prévoir aussi sur Charest Est entre Henri IV et Robert Bourassa. Henri IV Sud, à partir de Charest, ça ralentit jusqu'à l'entrée des ponts. Pareil pour Duplessis Sud et pour ce qui est de la 20 direction Ouest. C'est entre la route du président Kennedy et Chemin des Îles que ça se passe. Évidemment, il y a quoi que ce soit d'autre, ça passe par le 88-971-1021 texto.
C'est quoi la guerre de gros bébés qui se déroule avec le service des incendies de Trois-Rivières présentement? Alors que normalement, quand t'es un pompier, moi je favoriserais l'entraînement, hein, la mise en forme et ainsi de suite, ce qui est quand même relativement important quand t'es pompier. Puis on le sait... Quand il n'y a pas de feu, les pompiers, c'est plus tranquille. Même qu'à une certaine époque, on faisait des jokes. « Hey, c'est bien beau relaver le troc, mais il est même pas sale, là, tu sais. » Et de façon générale, si on regarde l'ensemble de la province, les services des incendies, entre autres celui de Québec, ben on fait la promotion de « Ben tabarnouche, quand vous avez rien à faire, vous pouvez vous entraîner, tu sais, pour rester en forme et ainsi de suite. » Trois-Rivières, ça marche pas de même. Le service des incendies de Trois-Rivières interdit à ses pompiers de faire de l'activité physique entre deux appels, allant jusqu'à confisquer des équipements sportifs dans une caserne, ce qui est arrivé dans la dernière semaine.
Mais pourquoi?
Dans une communication par courriel, le directeur des opérations, sûrement un gars bien sympathique, Carl Boulian, demandait au capitaine d'une caserne fautive de retirer les équipements sportifs découverts lors d'une récente inspection, sans quoi il allait les récupérer sur le champ. La raison invoquée, le sport et l'entraînement sont pas permis sur le temps de travail et sont contraires aux orientations du service.
C'est quoi, on préfère Candy Crush?
J'imagine.
Fortnite?
Puis le gars avait un niveau de tolérance très restreint, hein, par rapport au fait que ses policiers... plutôt ses pompiers s'entraînaient, parce que le lendemain du courriel, le gars s'est pointé à la caserne avec une boîte. Puis il a ramassé toutes les haltères, puis il est parti avec sa boîte.
Ça se demandait s'il n'y a pas du personnel là-dedans. Ça sort de nulle part.
Si j'ai à gager, là, c'est ce que Jean Perron appelait la pointe de l'asperge. Là. Il y a d'autres choses en dessous et autour de ça.
C'est parce
là.
Que ça sort trop de nulle part.
Surtout qu'il y a des casernes qui ont des salles d'entraînement.
Mais oui,
en fait,
carrément.
Je pense que c'est une majorité de casernes qui ont des salles d'entraînement parce que comme ça, ça, tu sais, c'est le côté qualité de vie aussi. Si tu peux t'entraîner pendant les bouts où t'as pas besoin de servir. Ben,
ce qui est bizarre, c'est que la ville de Trois-Rivières est solidaire avec le chef des pompiers parce que la direction des communications de la ville confirme qu'il est interdit aux pompiers de s'entraîner pendant qu'ils sont en fonction. Ce qui m'apparaît comme un non-sens total.
Je comprends pas.
Y a quelque chose, par exemple, qu'il faudrait peut-être vérifier. Quand le chef des pompiers est rentré avec sa boîte vide, il la transportait seul. Y a-tu besoin d'aide?
Pour la sortir?
Pour la sortir, un coup les haltères dedans? Parce qu'il s'entraîne pas, peut-être, je le sais pas. C'est ridicule.
C'est parce qu'il est arrivé quelque chose de précis, t'sais, une erreur sur un appel parce que les gars l'ont pas entendu puis qu'ils s'entraînaient. Je sais pas n'importe quoi.
Ou il laissait traîner des haltères, puis c'était problématique parce que c'était n'importe où.
Mais
il
là,
il se ramène raison.
On mentionne même pas ça.
On l'a pas entendu pendant que Joe se faisait les bras. Il a échappé un 35 sur son cellulaire. je pense pas, là.
Mais normalement,
la ville de Trois-Rivières avait répondu en disant que c'est seulement en raison de sécurité au travail que ces équipements ont été retirés et que les pompiers peuvent s'entraîner dans un centre de sport à proximité pendant les heures de travail s'ils planifient leur visite.
Ben là, c'est un peu ridicule.
Mais mon Dieu, installez-leur un... Audrey, elle a un gym à travers son linge sale dans le sol.
Mon linge sale prime sur ma présence dans le gym, mais quand
malheureusement,
même, j'en ai,
là, oui, c'est
ton,
ça.
Ton gym, c'est 80 % des gymnases de sous-sol.
Oui.
C'est là que t'étends ton linge, puis c'est à ça que ça sert.
Absolument.
À cette heure.
Mes bords pour les biceps, c'est mes plus belles chemises qui vont dessus.
Tous les appareils fonctionnent. Tous les appareils ont un objectif. 15h48.
Les actualités présentées par le Festival Western de Saint-Tite. Du 5 au 14 septembre prochain, voyez Sam Barber, Josh Malloy et plusieurs autres. Achetez votre passeport au fwst.ca.
On fait le tour des principales nouvelles. Outre les haltères saisis dans les casernes de Trois-Rivières, Véro.
Il y a une femme de 72 ans qui a été happée dans le secteur Charlebourg en début d'après-midi par un automobiliste. C'est arrivé à l'intersection du boulevard Henri Bourassa et de la 76e rue. On dit que quand les secours sont arrivés, la victime respirait, mais elle était inconsciente. Elle a été transportée à l'hôpital pour des blessures à la tête et elle aurait repris conscience lors de son transport vers l'hôpital. On confirme maintenant qu'elle est hors de danger. Puis sur le coup, c'est un peu nébuleux comme collision. C'est même posé différentes questions par rapport à qu'est-ce qui s'est passé avec le conducteur. Et finalement, après vérification auprès de témoins, puis on a regardé aussi les images des caméras de surveillance, selon le service de police de la Ville de Québec, il n'y aurait eu aucune incidence criminelle. Ça fait quand même plusieurs incidents avec des piétons qu'on a eus au courant des derniers mois, mais il y en avait beaucoup qui étaient de soir, en plein jour. C'est un petit peu moins fréquent. Il y a eu un appel à 15 heures cet après-midi entre François Legault et Mark Carney. À l'heure actuelle, on n'a toujours pas la teneur des propos qui ont été dits à ce moment-là. C'était le premier appel officiel entre les deux.
Ça a l'air que Mark Carney en gros a demandé à François Legault d'arrêter de le citer comme une référence économique. Arrête de dire que t'es mon arrête de dire que je suis ton modèle. Là.
S'il te plaît, t'as décoté.
T'as décoté le Québec.
D'ailleurs, Mark Carney qui lui va faire un point de presse demain à 11h.
Est-ce que Mark Carney lui a fait la fameuse blague « T'as décoté le Québec et bécoté ta sœur? » Non, il n'a pas fait.
Ce qui est écœurant.
C'est malheureux.
Tu peux-tu donner le crédit? C'est beau le mime qui se promène. On l'a trouvé tous très drôle.
Le quoi?
Le mime sur décoté et bécoté. Je l'ai trouvé absolument génial. Mark Carney qui aujourd'hui a perdu un siège suite aux élections de lundi parce qu'on vous avait parlé qu'on avait dû, entre autres, ça avait été long avant qu'on compte certaines circonscriptions, puis même que certaines s'étaient serrées. Et on avait annoncé que, mon Dieu, le Parti libéral avait réussi à aller chercher un autre siège du côté de Terrebonne avec 35 votes en avant de la candidate qui était du côté du Bloc à ce moment-là. Et finalement, recomptage officiel. Et on a annoncé dans la dernière heure que le Bloc québécois remportait finalement Terrebonne 44 voix en avant. Semble-t-il qu'il y aurait eu des erreurs d'addition à l'origine quand on a compté une première fois. Fait que ça place le Parti libéral du Canada à 168 sièges et le Bloc québécois à 23 sièges. J'imagine que ça ne devrait plus bouger rendu là.
Dans le cas des pompiers de Trois-Rivières, vous êtes plusieurs à théoriser qu'il y a probablement eu une réclamations à la CNESST pour un accident de travail. Puis c'est peut-être pour ça là, qu'on est devenu à cheval.
Pas détestable.
Ça se vérifie. On va checker. S'il y a eu de quoi, c'est sûr que ça va sortir d'une façon ou d'une autre.
Il y a Donald Trump qui a dû déplacer son conseiller à la sécurité nationale, Mike Waltz. Ça avait commencé à circuler. Mike Waltz a été pogné dans une affaire de fuite d'informations sur les frappes militaires qu'on aurait partagées par erreur avec un journaliste en utilisant la messagerie de Signal. Il n'est pas le seul à faire partie de cette enquête-là, soit dit en passant, mais on se demandait bien gros qu'est-ce qu'il allait faire avec cette patate chaude-là. Finalement, il a pris la patate chaude puis il a trouvé un super beau poste.
Il a fait une promotion à la patate chaude. Moins de stress puis une maudite belle job.
Ambassadeur du côté des Nations Unies, ce qui est franchement pas détestable. Et on a confirmé du même coup que Marco Rubio prenait sa place par intérim du côté de la sécurité nationale. Hey, j'ai oublié de vous parler de Bernard Drainville. Il va être déçu. Là.
Oui, ben ça devrait être ta première nouvelle. Bernard Drainville, après avoir réglé les problèmes d'intimidation scolaire, maintenant a décidé de régler les problèmes de politesse et les problèmes de communication.
C'est un
futur homme d'État.
J'ai fait de l'errance. On a donc annoncé aujourd'hui qu'on mettait en application la seule recommandation qu'on avait eue dans le rapport intérimaire de la Commission parlementaire transpartisane sur le temps d'écran et les réseaux sociaux chez les jeunes. Le rapport au complet va en avoir d'autres, des recommandations, mais on le remet le 30 mai prochain. On suggérait de bannir l'utilisation du cellulaire à l'école entre le moment où on se présentait sur le terrain de l'école et le moment où on quittait l'école. C'est carrément ça qu'on a annoncé aujourd'hui pour vraiment la rentrée de 2026. On a présenté en conférence de presse que les téléphones cellulaires, les écouteurs et les autres appareils mobiles personnels étaient désormais interdits, en fait, avec cette application-là, l'automne prochain, pour les écoles, autant qu'elles soient publiques que privées.
Il était tellement over-solennel et over-dramatique dans sa conférence de presse et sa présentation que je pense qu'on a trouvé qui est en train d'organiser la course à la succession de François Legault dans son dos. Pas mal sûr, c'est lui qui se voit comme un futur chef d'État.
Parce que Bernard Drainville est certain que moqueries, insultes, conflits violents qui prennent naissance sur les médias sociaux, mais ça va arrêter avec ça. On met en place aussi le vouvoiement obligatoire dans toutes les écoles. On pense que ça va amener une culture du respect et du civisme au fil du temps.
Courte pause à Boulevard 102.1 et au retour, Sam Hamad, prise 2.
Gravel. Le plus vendu au Canada.
Génacol antidouleur est en promotion à $19.99 chez Uniprix jusqu'au 7 mai. Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi.
Génacol, tu me fais du bien.
Cet été, prenez le contrôle avec Enviroconfort grâce à nos thermopompes et à nos climatiseurs de marque reconnues et également grâce à nos experts pour vous conseiller. Des rabais, on en a. En plus des remises de manufacturiers, en plus des subventions gouvernementales, on peut vous diriger à travers tout ça. Besoin de thermopompes, de climatiseurs, murales ou centrales, d'accumulateurs de chaleur, tout ce qui a trait à la géothermie, plusieurs produits, plusieurs marques disponibles selon vos besoins, puis vous savez pas trop, faites-vous-en pas, on va vous diriger. C'est pas pour rien qu'Enviroconfort, c'est le choix du consommateur en chauffage et climatisation. Enviroconfort.com, Enviroconfort.com.
Le saviez-vous?
À 16h01, bienvenue chez vous à Boulevard 102.1, bienvenue dans le mois de mai, bienvenue chez nous dans le retour. On a du soleil, on a 13 degrés, la pluie débute à l'aube, demain 10 à 15 mm au sol, des nuages pour samedi, du soleil pour dimanche, des maximums de 16 degrés. Et sur les routes, Audrey?
Peut-être commencer par des débris qui traînent dans la voie de gauche sur Henri IV-Nord après l'avenue Chauveau. C'est l'accotement de gauche précisément, là, dû à un accident. C'est en train d'être ramassé au moment où on se parle, sachez-le. Si vous êtes sur la capitale, direction est, entre Henri IV et Laurentienne en ce moment, difficile de circuler. Direction ouest, c'est entre Beau-Royal et Laurentienne que ça ralentit. Des gros problèmes aussi sur Charest, direction est, surtout entre Henri IV et Robert-Bourassa. Robert-Bourassa, direction sud, entre Charest et le boulevard Laurier, difficile de circuler aussi. Si vous êtes sur Henri IV sud, de Charest au pont, c'est au ralenti. Duplessis sud, même chose, dans la bretelle de Charest, direction est, vers Duplessis sud, ça commence déjà à ralentir jusqu'au pont Pierre-Laporte. Il y a un ralentissement inhabituel sur Henri IV nord, entre Wilfrid Hamel et la capitale, sinon c'est vraiment sur la rive sud, de la 20 direction ouest, entre la route du président Kennedy et Chemin des Îles, quoi que ce soit d'autre, 88-971-1021, texto.
C'est sa deuxième grande tournée depuis qu'il a confirmé qu'il sera candidat à la mairie à la prochaine élection. Il est en studio avec nous. Sam Ahmad, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien. Travaille fort en passant.
Oui?
Oui.
Ah, j'ai hâte de voir les résultats et je pense que je ne suis pas le seul. Je sais que vous aimez avoir les feedbacks quand vous venez en onde. Vous êtes curieux de savoir ce que les gens en ont pensé.
Vous savez pourquoi? Parce que je veux m'améliorer tout le temps.
Je veux vous faire le résumé de ce qu'il y a eu comme réaction suite à votre premier passage. Dans un premier temps, les gens ont entendu beaucoup de choses qu'ils aimaient. Des choses sur lesquelles ils ne sont pas satisfaits, des points sur lesquels vous voulez travailler. Mais l'autre volet, si on veut regarder le verre à moitié vide, ils étaient très déçus de ne pas avoir concrètement les solutions ou les moyens de compenser pour, par exemple, la hausse à la taxe à l'immatriculation, qu'est-ce qu'on met à la place du tramway et ainsi de suite. Ils ont hâte de voir la viande autour de l'os.
Mais moi, je veux leur rassurer, ils vont être encore contents quand ils vont entendre nos propositions.
Là, vous avez plein d'annonces concrètes à faire aujourd'hui pour nous autres, j'imagine. Bien,
là, mon annonce, je suis content de vous voir et content de jaser. Puis amenez vos questions, on va vous répondre. Sincèrement, là.
Oui.
L'élection est dans à peu près 6 mois.
On a vérifié le début de la prochaine campagne électorale, Véro, c'est le 19 septembre,
oui.
C'est ça?
Oui.
OK.
OK. Alors, et donc, on a du temps en masse pour arriver avec tout ça. Là, ce qu'on a fait depuis l'annonce de la candidature, c'est important de savoir, on a fait beaucoup de terrain. On a travaillé le recrutement.
Okay.
Et honnêtement, la réponse est tellement bonne là, que ça va très bien à ce niveau-là. On travaille le programme.
Vous n'êtes pas disparu entre vos deux tournées médiatiques? Parce que là, on se disait, Sam Ahmad est redevenu un fantôme.
Bien, un fantôme peut-être ici, mais pas un fantôme sur le terrain.
OK, OK.
Et en passant, vous connaissez peut-être un peu mal. Moi, je suis un gars qui travaille, qui est sur le terrain. Mm-hmm. Pour moi, la politique, c'est les gens, le peuple. C'est la première chose à faire, c'est écouter. Deuxième, trouver des solutions. Mm-hmm. Troisième, les proposer.
Avez-vous senti sur le terrain que les gens ont hâte de se faire proposer des solutions, des alternatives?
Bien, en fait, c'est eux-mêmes qui me proposent.
Okay.
Ils m'en parlent des solutions. Alors, ils n'ont pas hâte d'entendre, mais ils ont hâte de... Ils parlent de leurs choses et ça, je fais. J'écoute et c'est pas mal ce que je pense aussi. Mais c'est important d'écouter les gens parce que ça fait quelques années que personne ne les écoute, personne ne les respecte. C'est bien beau avoir une vision, mais il faut qu'il y ait une adhésion à une vision. Et c'est ça notre gros défi, c'est ça le leadership. Donc là, on fait le terrain, on rencontre des gens, on écoute et vraiment les gens sont le fun, sont intéressants. Puis ils vont être contents parce que dans le fond, là, ça va être simple. Là. Qu'est-ce qu'une ville doit faire pour ses citoyens? Comment on peut prendre le leadership dans la région? Comment on peut développer l'économie? Comment on peut avoir un système de mobilité à la région de Québec qui répond à tout le monde? Pas un quartier au détriment de la ville, au détriment des banlieues. Alors tout ça, les réponses en viennent. Puis surtout à l'autre élément, on est tanné toujours d'avoir des taxes parce que je ne fais pas mon devoir de gestionnaire. Puis quand je dépense trop, mais je m'en vais vers vous puis je vous demande la différence. Ça, là, c'est inacceptable.
Mm-hmm. Monsieur Ahmad, pas longtemps après votre première tournée d'entrevue, vous avez fait la manchette, même la une des journaux, parce que vous avez travaillé pour le groupe Trudel, qui est très présent et très visible dans la ville de Québec, qui développe de gros projets présentement, qui sont eux aussi très présents dans les médias. Pourquoi pas éclaircir complètement cette situation-là ensemble? Comment vous vous placez par rapport à ça? Puis, qu'est-ce que vous allez faire en tant que maire pour éviter ce qu'on pourrait appeler des apparences de conflits d'intérêts?
Il y a un mot qui manquait dans ce que vous avez dit. C'est des gens qui ont eu un grand succès à Québec.
Absolument.
C'est l'homme d'affaires qui est plus en vue, le plus réussi. Alors, être une personne à côté de la personne qui est le mieux réussi à Québec actuellement, c'est un honneur. Et que cette personne-là fait appel à moi, bien, c'est un honneur pour moi. Par ailleurs, si on regarde les premiers ministres, les ministres, il y a plein de monde qui siégeait sur des conseils d'administration, puis c'est une qualité. Pourquoi? Parce que si vous voulez gérer, il faut que vous ayez une expérience. Puis quand vous êtes sollicité par des gens compétents, des gens qui ont réussi, mais c'est encore mieux, c'est pas un défaut. Le défaut, c'est pas avoir l'expérience. Le défaut, c'est que les gens vous appellent pas parce que ça, vous êtes pas bon, vous avez rien à offrir. Alors moi, je suis très fier de cette expérience-là. Et William Trudel, c'est un homme exceptionnel, un jeune entrepreneur exceptionnel. Puis pas pour rien, il est rendu avec 1 milliard de projets à Québec. C'est un développement économique important.
Mais justement, vous savez que la politique, c'est une histoire de perception. D'avoir une personne à succès comme ça, puis de pouvoir penser qu'il y a une proximité entre le politique, puis ça, pour certaines personnes, ça va être dérangeant. Pour certaines personnes, ça va faire « Ouais, on s'en va dans les magouilleries, nous, on préfère un peu plus d'indépendance. » Il va falloir que vous gériez ça. Là.
Écoutez bien, là, dans ce sens-là, là, ça veut dire qu'on veut quelqu'un qui n'a jamais rien fait, qui n'habitait pas la ville, il habite peut-être dans la Lune, là, parce que là-bas, il n'y a rien. Et on arrive là, pas d'expérience, pas de connaissances, connaître personne, pas de compétences, bien, ça va tomber une gestion de ville mauvaise. Alors, évidemment, les règles sont claires, on va respecter les règles comme telles. Puis je pense que quand quelqu'un arrive avec l'expérience puis comprend de quoi qu'il parle, bien, en passant actuellement à la Ville de Québec, on a un problème de compréhension, on a un problème d'expérience, on a un problème de gestion. Puis si je regarde les CV qui sont là, ça finit sur une longueur d'un quart d'un papier. Et c'est ça qui fait des fois la différence.
Avez-vous l'impression que c'est quelque chose qui va revenir beaucoup pendant la campagne électorale? On va faire référence à votre premier passage en politique, puis on va parler d'un nuage au niveau de l'éthique et ainsi de suite?
Vous savez, il y a du monde qui cherche. En fait, moi, je me souviens, là, when they go low, we go high.
Mm-hmm.
Et en politique, quand vous n'êtes pas fort, dans la société aussi, quand vous n'êtes pas fort, qu'est-ce que vous essayez de faire? C'est de faire des mauvais coups. Et moi, je ne suis pas là. Mm-hmm. Moi, là, je n'ai pas à jouer cette game-là. Moi, je vais amener des propositions pour nos citoyens. Puis ceux qui jouent bas, parce qu'ils n'ont rien à dire, parce qu'ils ne sont pas forts, ils n'ont pas l'expérience, puis ils cherchent l'attention. Moi, je ne cherche pas l'attention. Ça prend, en passant dans le contexte actuel à Québec, là, ça prend un adulte dans la salle.
Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelqu'un qui a l'expérience dans la gestion des finances publiques, quelqu'un qui a l'expérience dans l'économie, quelqu'un qui a l'expérience dans les conventions collectives, quelqu'un qui a l'expérience dans le transport, les infrastructures. C'est ça qu'on a besoin. Un leadership, là, en fond.
Monsieur Hamad, concrètement, parce que je ne sais pas comment ça marche, mais je sais comment gérer, moi, quand j'ai des gens proches puis que je pourrais prendre la mauvaise décision parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Quand Véro a été engagé pour la première fois dans une station de radio, je connaissais très bien Véro, on s'était fréquenté, et ainsi de suite. J'avais dit à mon boss et à mon collègue, moi, je me retire du processus, puis c'est vous autres qui allez décider si on l'engage ou pas, puis moi, je vais vivre avec votre décision, quelle qu'elle soit. Concrètement, quand M. Trudel va arriver avec un projet à l'Hôtel de Ville, mettons, prenons un projet pas d'allure, leur partir le fort avec 50 étages de plus, mettons, là. Comment ça va marcher concrètement?
C'est exactement ce que vous venez de dire. Merci. Ouais. C'est exactement ça. C'est que je n'interviendrai pas. Je laisse les fonctionnaires de regarder les dossiers.
Okay.
Puis en passant, on va le regarder comme il faut, puis il faut qu'il soit bétonné pour donner prendre les positions. C'est exactement comme ça fonctionne.
Le gouvernement est minoritaire. C'est Mark Carney qui est maintenant un premier ministre légitime. Ce gouvernement-là a confirmé, ou plutôt reconfirmé, sa participation dans le projet de tramway. Ça réjouit M. Marchand.
Il a confirmé?
Il a dit qu'on avait encore la main là-dedans, c'est ça?
Ben, en fait, il y a eu des engagements de la part des députés de la région de Québec à l'effet qu'on continuait.
Vous faites comme on fait à l'administration Marchand. Là. On prend des mots puis on interpelle.
Ils ont dit qu'ils allaient respecter leurs engagements.
Oui. Mais en passant, là, le projet de tramway, là, actuellement, aujourd'hui, là, est-ce qu'il y a une entente financière? La réponse est non.
Il y a une partie d'entente financière avec le fédéral. Par contre, le fédéral ne s'est pas encore commis pour avoir le 40 % avec les nouveaux chiffres.
Il n'y a même pas une entente financière entre le gouvernement du Québec et la Ville de Québec, en passant. C'est encore pire. Deuxièmement, est-ce qu'il y a un projet clair et défini? Non. Pourquoi? Parce que la Caisse de dépôt a dit qu'ils vont proposer leur solution en 2027. Je vous rappelle, là, 2027. Puis après ça, la Ville de Québec, le gouvernement du Québec va dire oui ou non. Donc, il n'y a pas de projet pour le moment. Il n'y a pas de projet réel. Là, évidemment...
Quand pourtant, il y a au moins le palier du provincial qui maintient qu'il y a un projet qui continue à avancer.
Il avance dans les études pour faire une proposition financière. Si on arrive en 2027 avec une proposition financière qui coûtera à la ville des milliards de plus ou ça ne convient pas à la ville, ça se peut que la ville dit non. Donc, il n'y a pas de projet. Si le gouvernement, je veux juste finir là-dessus, si le gouvernement arrive et dit le projet il est 15 milliards, on sait aujourd'hui qu'ils ont un problème de finances, mais il dit, mais là, on ne le fera pas. Il y a toujours une question qui n'est pas décidée avant 2027. On va s'entendre. Deuxièmement, je vais finir là-dessus. Deuxièmement, alors, rappelons-nous, le ministre Jonathan Julien, il a écrit une lettre au ministre, dans le temps qu'il était ministre, à M. Duclos, pour demander des changements ou faire les ententes. Oui. Il a reçu un refus. Rappelez-vous de ça. Donc, il n'y a même pas des ententes entre les deux parties aux convenances du gouvernement du Québec. Là, arrêtons, soyons réalistes. En main aujourd'hui, la réalité aujourd'hui, on en parle du tramway. Puis quand le vent souffle, on sort, on dit « on est parti ». Là, il arrive quelque chose, on est parti. Ça fait combien de fois qu'on est parti et on n'est jamais arrivé?
Monsieur Hamad, vous avez commencé l'entrevue en disant que les gens veulent être écoutés. Il y a eu un sondage qui est sorti il y a moins d'un mois que ça où 66 % des citoyens de la région de Québec disaient qu'ils étaient tannés des tergiversations concernant, entre autres, le tramway puis qu'on voulait aller de l'avant. Est-ce que d'agir comme ça, c'est de nous placer encore dans une position
passant,
sur le neutre?
Le sondage, les gens, ils disent qu'ils sont tannés.
Et Monsieur Marchand dit la même chose en passant.
Puis, oui.
Êtes-vous tous d'accord là-dessus? On a trouvé un point commun.
Mais moi je l'ai dit avant lui, j'ai dit la veille que les gens sont tannés à Québec. Sont tannés de tourner en rond. Pourquoi qu'on tourne en rond, là? C'est à cause de qui, vous pensez? C'est parce que si on avait un leadership à Québec, d'abord, la ville ne contrôle pas son projet. Ça, c'est une défaite, là. Et la ville... Regardez, là, il apprend l'administration Marchand, apprend les nouvelles... par le biais de vous, les journalistes. Ils ne le savent pas avant. Tous les projets qu'on a arrêtés à la Ville de Québec, là, il y a à peu près 2-3 semaines, là, on a arrêté plein de projets. Est-ce que la Ville de Québec savait que ces projets-là seront arrêtés? Non.
Tout le monde semble surpris, là.
Oui, mais la Ville ne peut pas... ça touche la Ville, là. C'est la première à le savoir avant tout le monde. Deuxième élément, comment on a réagi? La façon qu'on a réagi est simple. On a dit, là, je vais demander un plan de contre la congestion routière. Je vais demander au gouvernement, puis je vais rencontrer le gouvernement. Parfait, bravo. Mais en passant, là, tu n'as pas besoin de tout ça, de l'annonce pour dire que tu veux rencontrer le gouvernement. Normalement, si on a un leadership, tu prends le téléphone, tu appelles la ministre, tu dis qu'est-ce qui se passe, tu jases avec, puis normalement, tu devrais le savoir avant. Ce qui est arrivé, il y a eu sa rencontre pas tout de suite. Il y a eu une semaine, je ne sais pas combien, 10 jours. Et là, il rencontre une heure et demie, rencontre avec deux ministres. Puis c'était chaud, la rencontre. Ça sort avec quoi après la rencontre? Zéro. Aucune décision. Mais c'était vraiment intense, la rencontre. Très intense. En tout cas, une rencontre intense, ça ne donne rien après. Ça veut dire qu'on était intense dans le vide, là.
Vous attribuez ça à la faiblesse de Bruno Marchand, alors que partout à travers la province, actuellement, les communications avec le gouvernement de la CAQ semblent plutôt difficiles.
Bien, je vous donne un exemple. Si vous étiez important dans une entreprise, dans une organisation, une personne influente, une personne qui a un leadership, quand je vais prendre une décision qui vous concerne, je pense que la première chose que je pense de faire, c'est de vous en parler avant. Ça, on fait ça partout.
Fait qu'il n'y a personne d'important dans la province de Québec pour la CAQ.
En fait, je reviens à la Ville de Québec. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la Ville de Québec. Et parce que je ne connais pas les autres situations, celle-là, je la connais. Et lorsqu'on apprend toujours à la Ville de Québec les nouvelles des décisions de gouvernement... Rappelons-nous d'une conférence de presse sur la police où l'administration Marchand faisait la conférence de presse, était au micro. Puis le ministre Bonnardel a envoyé un communiqué de presse aux journalistes en même temps que la conférence de presse relativement à la police.
C'était sur les prêts de service, ça.
Puis la ville a dit que, ah non, c'est le gouvernement doit nous payer la police. Comment ça finit, cette histoire-là? Ça finit que la Ville de Québec a reconnu qu'ils n'ont pas assez de police, puis ils ont décidé d'embaucher des... En passant, c'est une bonne décision, mais toute la bagarre avant, c'était le gouvernement ne nous donnait pas ça. Trouvez ça insultant, vous, que vous faites une conférence de presse, vous n'êtes pas au courant qu'un communiqué de presse est sorti. Moi, je n'ai jamais travaillé comme ça en passant. Jamais, jamais. Lorsqu'on travaillait avec Régis, on préparait le tout avant, on en discutait, on s'entendait, puis on annonçait.
Juste refermer rapidement la parenthèse sur le tramway, parce que moi aussi, je suis tanné, pour être bien honnête. Quand vous allez être maire si vous devenez maire. Le maire Sam Ahmad, vous le connaissez. Monsieur Carney, qu'est-ce que vous allez lui dire quand vous allez aller l'appeler sur ce projet-là? Parce qu'il y a quand même une promesse d'argent remis sur ce projet-là. Ça va être quoi votre première conversation avec Mark Carney?
Premièrement, je veux juste vous dire que je connais bien Monsieur Carney parce que moi, j'étais ministre dans le temps en 2008 quand il était gouverneur de Banque du Canada, puis on s'est rencontrés, des rencontres des ministres de toutes les provinces.
Okay.
Deuxièmement, je connais très, très bien Monsieur Champagne. Et je connais un autre collègue, ancien collègue, c'est l'État-O. Et je connais aussi Mélanie
Joly. Qui a été
élu
au fédéral lundi.
Exact. C'est tout le cabinet, futur cabinet de M. Carney. Puis en passant, ces trois-là, ces quatre-là, c'est l'équipe, les grandes équipes de M. Carney. Donc, normalement, un gouvernement minoritaire ou majoritaire, la première chose à faire, c'est respecter les choix des citoyens. Si je suis élu avec la bénédiction de nos citoyens à la Ville de Québec, le message est clair. Avec notre projet qu'on va proposer, nous, à Québec, on veut ce projet-là. Je peux vous garantir une chose, c'est la Ville de Québec qui va contrôler son projet, qui va choisir son projet, et on va demander les subventions du gouvernement du Québec et le fédéral. En passant, le fédéral ne subventionne pas directement à la Ville. Le fédéral va donner de l'argent au provincial, qui va donner de l'argent à la municipalité. C'est comme ça que ça marche. Et il ne faut jamais négliger le rôle du gouvernement du Québec là-dedans.
D'ailleurs, parlons-en du gouvernement du Québec. Mon Dieu Seigneur, par où commencer? Vous parlez tellement de manque de leadership. Ce gouvernement-là manque de leadership par rapport à la région de Québec. Puis on va parler d'un autre politicien que vous connaissez. Puis là, je vais peut-être vous faire de la peine. Mais Jonathan Julien, qui nous dit que tout va bien. On vient de suspendre tous les projets de transport. Jonathan Julien dit que ça va bien. On a des problèmes dans Saint-Roch. Jonathan Julien dit que ça va bien. Il n'y a pas de l'air au courant de ce qui se passe. Il a dit récemment qu'il avait travaillé sur 1000 projets en transport. Puis après vérification, il y en avait 40. Le leadership et le manque de leadership, M. Ahmad, il n'est pas exclusif à la Ville de Québec. Et tant qu'on a un gouvernement qui ne s'occupe pas de nous autres, alors qu'il y a des problèmes urgents à régler, vous ne contrôlez pas la partie principale de ce qui manque comme leadership?
En fait, M. Julien, je le connais bien, c'est un bon gars, puis il y a beaucoup de volonté.
J'en doute pas que c'est un bon gars.
Puis il y a